l'EHPAD, ça peut être un travail autour de la question du patrimoine, de la culture.
La mémoire du village. Et les jeunes, ils vont vraiment enregistrer ce qui s'est passé dans le village, c'est quoi cette place, c'est incroyable.
En fait, c'est un maillage de projets. Chaque village, dans les 200 villages qu'on accompagne, mais il y a une très grande diversité de projets. Et ce qui est notable, c'est que je salue Élodie qui est la cofondatrice avec moi d'Incite, c'est que aujourd'hui 18 à 20% des jeunes qui passent 6 mois dans les villages, qui viennent souvent de très loin, restent sur le territoire après, et en 6 ans et demi, ça crée 30 emplois directs. Sans compter les emplois indirects.
Les jeunes s'installent.
Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a dans nos territoires des émetteurs de projets, des élus locaux, des responsables associatifs qui ont plein de projets. Sauf que pour recruter des gens dans leur environnement direct, les populations sont réduites. Et donc on ne trouve pas forcément les gens. Nous, on est en contact avec plein de récepteurs potentiels qui viennent de France et d'ailleurs, d'Afrique, d'Europe, et qui sont intéressés par ces projets. Donc on les fait venir. Et faire en sorte que, autour de projets communs et de vie commune, on apprend à se connaître, on apprend à s'engager ensemble, après, au bout du mois, parce que chacun de nos villages sont des endroits extraordinaires. Où qu'ils soient, de la Corse à la Normandie, de l'Alsace au Pays Basque, il y a des endroits extraordinaires avec des gens extraordinaires. Tu l'as dit tout à l'heure, la ruralité, ce n'est pas qu'une géographie. C'est des gens qui vivent et des projets.
Namo.
Parmi les jeunes qui justement rejoignent Incite et qui font justement ces services civiques, quel type de profil vous avez? Est-ce que c'est forcément des jeunes issus de la ruralité ou pas forcément? Est-ce que vous avez un profil type ou pas forcément?
Surtout pas. Non, on n'a pas de profil type. Les gens viennent. Il y a un peu autant d'urbains que de ruraux. Il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Mais c'est des gens qui viennent d'un peu partout. Parce qu'ils postulent à des projets directement. Ils ne viennent pas ici, globalement, il n'y a pas de projet normé. C'est à tel endroit, dans ce village, ce projet sur l'environnement, sur le lien social, j'ai envie de m'y impliquer. Et donc j'y vais. Voilà, donc il y a des gens qui postulent d'un peu partout.
L'année prochaine, c'est municipal. Est-ce que Incite ne participe pas aussi à créer la nouvelle élite politique locale?
Alors je ne sais pas si c'est une élite. Mais en tous les cas, c'est des gens qui auraient envie. À quoi Incite a cette petite magie aussi, c'est de faire en sorte que nos jeunes vivent avec des élus locaux au moins 24 heures par semaine, voire un peu plus parce qu'ils vivent là, ils sont bénévoles, ils s'engagent, etc. Ce qui fait qu'ils voient différemment la démocratie se décliner sur le terrain. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les enjeux nationaux de rupture, de fracture, de combat les uns contre les autres. Moi, dans la mairie, qui sont venus avec moi, il y a des gens qui ne pensent pas comme moi. Mais on travaille ensemble, on construit ensemble. Et donc ces jeunes-là, ils ont une vision de la démocratie tout à fait différente. Donc je suis convaincu, c'est la première échéance électorale qu'on va vivre avec Incite, mais je suis convaincu que ça va donner envie, c'est sûr.
Je voudrais bien ton avis sur un truc. Il y a quelques jours, j'ai discuté avec Manon Rousseau-Payet, qui dirige le MRJC, le plus grand mouvement de jeunesse rurale. Et elle disait, ce que j'aime du MRJC, c'est qu'on prouve qu'on n'est pas obligé de faire un passage par la ville pour s'ouvrir l'esprit, etc. Parce que beaucoup des préjugés qu'il y a sur les ruraux, notamment avec l'augmentation du vote RN ces derniers temps, c'est « Ah, mais c'est parce qu'ils ne sont jamais sortis de leur trou, c'est parce qu'ils n'ont jamais vu autre chose, etc. » Et ce que je trouve vachement intéressant de Incite, c'est que vous, vous amenez les gens dans un village en partant du principe que c'est un changement, que c'est de l'ouverture d'esprit. Donc, je voulais un peu ton avis là-dessus.
Oui, on participe à peut-être un peu modifier l'image des territoires ruraux. D'abord, on dit que les territoires ruraux, ces territoires, tous ces territoires ruraux, ils sont dynamiques, innovants, joyeux et solidaires. Ça change la donne d'une image un peu moisie de ces territoires. Donc, ça crée de l'envie. Ça change l'image et on fait tout un travail de valorisation de ces villages. Pour ça, à chaque fois, on dit, quand on arrive dans un village, c'est le plus beau village au monde. Et c'est à chaque fois les plus beaux villages. Tu l'as dit, ton département, c'était le plus beau département de France.
Est-ce qu'on va avoir une page sur le Gers?
Je n'ai pas réagi, mais évidemment que c'est le Gers. Mais chaque département, chaque village, il y a une fierté, mais c'est une fierté qui se partage. Et donc, on a des gens, on n'a pas besoin de faire forcément une grande école pour se révéler, de mener des projets extraordinaires. J'étais en contact, je voyais un maire de, de Corse, Costa, un village de Balagne, 70 habitants. Il fait une cité de la musique. C'est un endroit incroyable. Il est déjà en lien avec plusieurs orchestres internationaux. Ça va rayonner, 70 habitants. Donc dans tous ces territoires-là, dans mon petit village, on fait le premier EHPAD 100%, on est à 87% aujourd'hui, de bio, de local, en termes de restauration. C'est une innovation. Et donc on arrête les laxatifs, la courbe des poids remonte, les gens sont plus en forme. Bilan, et c'est moins cher. Donc, il y a de l'innovation dans ces territoires, sauf que comme c'est 27 000 communes, c'est très atomisé. Donc notre boulot, et y compris avec une plateforme qu'on est en train de construire avec la MRF, avec Bouche ton coq, avec Amolégé, c'est de travailler sur une plateforme qui s'appelle On fait campagne, pour valoriser ça et montrer toutes les initiatives porteuses de sens qui marchent. Et donc pour faire en sorte que les collègues maires puissent en servir et ne perdent pas de temps à aller chercher des choses et s'en servent directement. Latifa.
Comment vous choisissez les villages avec lesquels vous allez collaborer ou dans lesquels vous allez envoyer des jeunes? Est-ce qu'il y a aussi un choix entre guillemets politique? Enfin, est-ce que vous travaillez avec des mairies d'extrême droite, par exemple?
Il n'y a pas beaucoup de mairies d'extrême droite, d'abord. Et ils ne font naturellement pas appel à nous. En tous les cas, on n'en a pas croisé.
Ouais, ce n'est pas leur truc.
Non. Les mairies qui font appel à vous,
c'est ça? Oui, c'est les mairies qui font appel à nous et ils doivent partager nos valeurs. Et quand je dis la ruralité, dynamique, innovante, joyeuse et solidaire, évidemment que si on fait venir un jeune en service civique qui est originaire du Maghreb et qui on nous dit non, c'est pas pour nous, évidemment que cette mairie n'a pas vocation à être dans le réseau d'INSI. Donc on tient ferme sur nos valeurs et à la fois on intègre, on discute, on échange avec les gens. C'est ça la force de la ruralité.
C'est quoi votre modèle économique? Comment vous vous financez?
Ça c'est une bonne question. D'abord l'intervention elle est gratuite pour les villages.
D'accord, ok.
C'est gratuit. Les mairies adhèrent à INSI. Ouais. Un prix libre, ça peut être quelques dizaines d'euros. C'est un prix libre parce qu'on est en gouvernance partagée. Donc chaque partie prenante de notre réseau est partie prenante et travaille avec nous. Donc il y a une adhésion. Sinon, on a 45% de financement public, 55% de financement privé. Et les financements privés, c'est beaucoup de fondations. La Fondation de France, la Fondation de la France s'engage qui nous a beaucoup accompagnés, mais aussi la Fondation SNCF, la Fondation RTE, AG2R La Mondiale. Bon, beaucoup autour de l'économie sociale et solidaire. Et puis après, des financements nationaux, le ministère de la cohésion, la cohésion des territoires, le ministère de la Jeunesse, puis ensuite les préfectures, les régions, les départements. Mais il faut dire que les financements publics fondent énormément. Donc on a un projet d'essayer de créer en plus une fondation pour venir aider les mairies, les petites mairies, pour venir. Non seulement on apporte des bras, des jambes, des jeunes qui s'installent, mais on a envie de venir apporter. Il y a quelques 10 000 euros, 15 000 euros, on change un peu la vie dans un village.
Namo ?
Et au niveau des jeunes, comment vous faites justement pour les attirer vers votre initiative? Est-ce que vous faites des campagnes de communication au niveau des CROUS, des facultés? Comment tout ça se passe sur les réseaux sociaux?
Beaucoup les réseaux sociaux, okay. Beaucoup les réseaux sociaux. L'agence du service civique, bien sûr, on a des fiches missions, on publie ces fiches missions. Et il n'y a pas besoin d'avoir des campagnes de communication de dingue parce qu'il y a une envie de s'engager. Nos jeunesses veulent s'engager. Il suffit de proposer des créneaux qui ont du sens, dans lesquels elles ont une plus-value, elles s'engagent vraiment, elles font pas juste des tâches subalternes, non, elles montent des projets. C'est pour ça qu'après les gens, ils ont envie de rester et de travailler sur place, donc ils sont considérés vraiment à égalité de droits et d'unité par rapport à n'importe quel autre citoyen du village.
On rappelle qu'il y a plus de jeunes qui voudraient faire un service civique que de services civiques disponibles.
Ça, c'est un vrai sujet. 150 000 missions de services civiques en début d'année, et là, avant l'été, on nous annonce qu'on va avoir 15 000 missions de service civique en moins, ce qui est un scandale. On pourrait en avoir, il faudrait qu'on en ait 200, 250 000. Et il y en a 15 000 de moins, alors que on est dans une période où on se dit la jeunesse va mal, et ce qui est vrai, il y a des vrais problèmes de positionnement. Assez, ouais. Alors que ce dispositif porté autant par la gauche que par la droite, il marche, il fonctionne. C'est une vraie politique publique jeunesse qui est efficace. Eh bien, on va économiser 45 millions d'euros pour 15 000 missions. De moins, ce qui est pour moi un scandale absolu.
C'est con, il n'y a plus de SNU, on aurait pu prendre le pognon du SNU. Mais en vrai, je ne vais pas.
Mais on l'avait dit
plus d'une fois. Excuse-moi, Loumir.
On a vachement parlé de INSI, mais tu es aussi maire. C'est quoi ton truc préféré sur le fait d'être maire d'une commune rurale?
M'occuper des gens. Je crois que c'est le truc le plus fascinant du boulot de maire, je suis un jeune maire, entre guillemets, parce que ça fait que 5 ans que je suis maire, 5 ans et demi, mais c'est être un couteau suisse dans un village et porter de l'attention à tout le monde. Et faire en sorte d'embarquer un collectif, de construire un collectif. Moi, toutes mes manifestations sont le moment de la convivialité, de l'échange, du partage. Le 11 novembre, je l'ai traversé, j'ai transformé en fête de la paix. Bon, voilà. Et donc, j'ai 50% du village qui vient aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai parce qu'il y a de la convivialité, parce qu'on se dit des choses,
parce qu'il y a
même
de
si on n'est pas d'accord. Alors, il y a de l'Armagnac également, bien sûr, ça, c'est un élément fondamental. Mais pas que, mais en tous les cas, voilà. Donc, ce qui me passionne, c'est m'occuper, être au service des gens et construire une dynamique collective.
En même temps, on a aussi des témoignages qu'on entend d'élus locaux ruraux qui jettent l'éponge, qui démissionnent, qui ne se représentent pas, avec un discours de trop de travail, trop peu payé. C'est un discours que tu comprends. Je te sens très, très volontariste, très joyeux, mais est-ce qu'il y a aussi une part d'ombre dans le mandat de maire ?
Non, mais c'est, bien sûr, il y a des moments où on est à disposition de la première baffe, hein, c'est-à-dire que ben, quand ça va mal, c'est nous qui prenons pour à peu près tout. Mais moi, je casserai un peu ce raisonnement misérabiliste sur les maires. Bien sûr, c'est un peu sensationnel de dire qu'il y a beaucoup de maires. Alors, c'est vrai, il y a des maires qui jettent l'éponge parce que la société va mal, parce que le rapport aux gens, il est difficile et parce que ça n'est pas simple de porter tous les jours et 24 heures sur 24. Moi, mon téléphone portable, mes 200 habitants l'ont. Donc, alors, ils n'en abusent pas, mais ça peut arriver qu'un dimanche soir à 23h, j'ai un coup de téléphone parce qu'il y a une mamie qui ne va pas bien. Bon, voilà, donc... On le sait, puis après on fait ça en équipe. Donc, moi je crois qu'on a une force terrible d'avoir ces 35 000 maires et ces près de 30 000 maires ruraux qui font un travail fantastique parce que ce sont les plus petites alvéoles du poumon démocratique et républicain de la France. Il faut les accompagner, il faut leur donner bien sûr un petit peu de moyens en plus parce qu'on en a besoin, mais surtout il faut leur apporter de la considération.
Voilà. J'allais te parler de ça aussi. Ce qu'on entend souvent de la part des maires ruraux, c'est la faiblesse des moyens, l'incapacité à agir, à transformer concrètement les choses. Tu nous as parlé tout à l'heure d'innovation, d'envie d'agir, d'envie d'énergie qui existe. Et pour autant, est-ce que tu as les moyens de remplir tes ambitions ?
On a les moyens d'inventer.
Ça veut dire galère.
Mais quand tu n'as pas beaucoup d'argent et pas beaucoup de gens, bah, il faut inventer. Et là, il faut être bon, hein. Donc, il faut faire. Donc, on est tous des MacGyver, couteau suisse. Donc, on invente. Ce qui fait que ça peut monter des projets extraordinaires. Mais en effet, on a plus besoin de moyens. En effet, nos collectivités locales et l'intercommunalité posent une vraie question là-dessus. C'est qu'on est dépossédé et à la fois du droit et à la fois du fric. Et qu'on passe une partie de nos conseils municipaux à avaliser des décisions qui sont prises ailleurs. Alors ça, c'est une vraie question démocratique qui se pose. Pour autant, l'intercommunalité peut avoir un certain nombre d'avantages. Moi, mon intercommunalité, c'est 24 communes, 7000 habitants. Tout le monde se connaît et donc on travaille ensemble. Mais quand on a une intercommunalité de plusieurs centaines de communes avec 100 000 personnes, bah, le maire rural, bien sûr, il ne prend jamais la parole. Donc, à la fois, ça a une vertu, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de moyens, parce qu'on est obligé de se débattre et d'inventer. Et il y a vraiment des pépites, c'est vraiment extraordinaire. La question de l'innovation et du dynamisme est très fort. Et à la fois, ben oui, c'est une entrave de temps en temps à pouvoir mener nos projets.
Dernière question, Latifa.
Oui, non, ça faisait penser vraiment à l'inventivité. C'est on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, quoi. Ça, ce slogan même dans la ruralité. Justement, là-dessus, qu'est-ce que là, c'est les élections municipales l'année prochaine. Je ne sais pas, est-ce que vous inciteriez un jeune à devenir maire de son village, à s'engager, etc. Je sais qu'on va recevoir le plus jeune maire de France après.
Qui est chez Incit en plus.
C'est quelqu'un de bien alors.
C'est quelqu'un de remarquable.
Mais du coup, vous incitez globalement les jeunes à.
Non, mais c'est une aventure extraordinaire. Extraordinaire. Être maire, c'est une aventure. D'abord, il n'y a pas que moi qui le dis. Même les gens qui ont été maire et président de la République disent le plus beau mandat, c'est être maire. Parce que c'est un mandat de contact, c'est un mandat d'action, c'est un mandat qui est dans le réel. Donc c'est une aventure humaine extraordinaire. Il faut savoir s'entourer. C'est du temps. On ne fait pas ça ni pour la gloire ni pour l'argent, ça serait. Mais c'est une aventure humaine extraordinaire.
Merci. Présentez-vous aux élections l'année prochaine, n'hésitez pas, l'aventure municipale. Merci beaucoup Thibaut Renaudin d'être venu sur ce plateau. Je te laisse quitter le plateau Thibaut. Merci d'avoir été avec nous. Ça va toujours ? Ouais, on peut l'applaudir, ouais, carrément. Merci beaucoup. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. On est toujours dans ce backseat spécial ruralité en direct de congrès de l'Association des maires ruraux de France. Loubir, ça va être ton premier quiz à la con.
J'ai un peu peur. Ouais. Le nom ne m'inspire pas confiance.
Eh bien, t'as bien raison. C'est parti pour le quiz à la con, mesdames et messieurs.
Let's go.
Alors, quiz à la con spécial mairie. Évidemment, les municipales, tout ça. On est au congrès de la MRF, faut pas déconner. Première question de ce quiz à la con. Quelle est la particularité de la petite commune de Leménil-Mitry en Meurthe-et-Moselle? Réponse A. Est-ce qu'elle a le même maire depuis 72 ans? Réponse B. Elle possède deux maires. Réponse C. Tous les maires de la ville ont toujours eu le même nom de famille. Ou réponse D. Elle n'a pas de maire du tout.
Déjà, j'ai l'impression d'être chez l'ophtalmo.
Ouais, c'est compliqué aujourd'hui.
L'écran est très loin. Non, mais c'est pour ça que je dis ça, mais c'est... On va... Non,
tout est possible en fait. Hein.
Ouais. Tout est possible.
J'ai l'impression que mais tout existe.
72 ans,
il a 90 ans s'il a été élu à 18 ans.
Il y en a des vieux, hein, des maires.
C'est le futur de notre invité.
Hugo, peut-être. Est-ce qu'on te souhaite d'être entre maire à 90 ans
Le côté même nom de famille, ça ne m'étonnerait pas.
Je suis d'accord. Moi, c'est ça chez moi. Hein. On a eu De la Verpierre, il a été maire, puis député. Quand il est devenu député, son fils est devenu maire. Quand il est devenu sénateur, son fils est devenu député.
Ah moi, ouais. J'adore. Ouais, bah... même ce genre de parcours. Ouais. Bon, évidemment, une pensée pour Louis Sarkozy qui se présente à Menton.
À qui on ne souhaite pas la victoire. Désolé.
Alors là, franchement, c'est...
Ouais. Qu'est-ce qu'en pense Latifa ?
Non, mais moi, je suis d'accord avec Loumir et Namou hein, sur... Mais bon, est-ce qu'on ne va pas innover, justement ?
Ah ben, bah, ça, je vous laisse voir. Hein.
Est-ce que... Bah, c'est possible, une ville sans maire ?
Bah, malheureusement, il y en a
alors,
plein.
Alors, une ville sans maire, il y en a plein. Ouais. Je le rappelle qu'une ville, une commune qui n'élirait pas de maire faute de candidat se retrouverait automatiquement sous administration préfectorale. C'est la préf qui reprend la main.
La règle du jeu, c'est ça.
Il
n'y
a plus de maire, il n'y a plus de. C'est fini.
Ouais, bah moi, je pense
alors, du coup,
que
ça coûte moins cher, il n'y a pas de conseil municipal, il n'y a pas de. Voilà.
Bon, bah, comme j'ai appris quelque chose avec cette info, pour moi, c'est ça.
Ok, d'accord. Je regarde le chat a voté réponse C.
C'est quoi réponse C? J'arrive pas à lire.
C'est le même nom de famille.
Mais alors, réponse B, c'est quoi?
Elle possède deux maires.
Ah, deux maires. Ça, c'est. Moi, je vais dire ça, tiens.
Tu vas dire réponse
possible,
B.
Ça bah, je trouve que c'est une réponse
ça,
à la con.
C'est bon état d'esprit du quiz à la con.
Bah, c'est une réponse à la con. Un quiz à la con.
Bah, ouais. Donc réponse
Loumir,
B pour Loumir. Dit,
moi, je vais finir dernière en fin de saison.
Parce qu'il y a un classement.
Chaque chroniqueur a sa strat. Il y en a qui veulent la win.
Oui, quand même.
Il y en a qui veulent.
Je ne vais pas savoir.
Qu'est-ce qu'on gagne?
Rien, absolument rien. C'est ridicule.
D'accord.
Donc vas-y.
Je vais dire deux maires aussi.
Donc réponse B. Toi, tu dis quoi?
Moi, je dis pas de maire. C'est... Pas de maire.
Pas de maire pour Latifa. Réponse C pour Namou. Même nom de famille. La bonne réponse, mesdames et messieurs, c'était la réponse C. Le même nom de famille. Tous les maires de Leménil-Mitry s'appellent Demitry.
Wow.
Il faut dire que c'est une commune dont la population culmine à 4 habitants et qui n'a eu que deux maires depuis 1977. Il y a eu Henri Demitry et Jean-Hyacinthe Demitry.
Demitry, c'est le nom du village aussi. Enfin,
oui,
Mitry,
c'est le nom du.
Bah,
du
voilà, village.
C'est
leur village.
C'est littéralement leur bled, hein, ça, là, quand on parle de fief.
Ah, le conseil municipal, c'est une réunion de famille.
Autre fun fact, lors du premier tour des présidentielles de 2022 à Leménil-Mitry, Macron, Zemmour et Le Pen ont toutes les trois fait 33%.
Ah, bah la famille, c'est pas entendu là.
Quatre habitants, ils ont pas voté la même bastion. Il y a eu trois bulletins de vote, un Le Pen, un Macron et un Zemmour.
Ah, les repas de famille.
Il y a bien une commune qui a eu un maire pendant 72 ans. C'est la commune de Bazolles, avec André Cornu, qui a été maire de 1815 à 1887.
Waouh.
Ouais, ça date. Hein.
Ah, putain, c'est rare de vivre si vieux à l'époque en plus.
Ouais.
Et il y a bien une ville qui possède deux maires.
Ah.
C'est la mairie de Saint-Santin, qui est à cheval sur le Cantal et l'Aveyron, et qui est divisée en deux communes.
Eh ben, d'accord.
Voilà. Deuxième question de ce quiz à la con. Dans l'est de la France, surtout en Bourgogne et en Franche-Comté, il existe un type de mairie un peu particulier, mais assez répandu. Est-ce que c'est les mairies Lavoir ? Est-ce que c'est les mairies Cavavin ? Les mairies Horloge ? Ou les mairies Fromagerie ?
Bah, y a des lavoirs dans tous nos bleds, ça c'est vrai. C'est le lieu de l'abribus, le lavoir ou le city stade, c'est là où on se réunit. Donc, c'est plausible.
Mais okay. Le fromage, on est...
Mais en Bourgogne.
C'est vrai.
Le vin.
Bah, horloge.
L'horloge.
Mairie horloge, ça fait un peu... C'est trop...
C'est leur côté germanique. Avec la frontière,
pas,
ils veulent être très à l'heure.
Sur toutes les mairies. Un peu, non, c'est moi qui hallucine là.
Est-ce que tu viens de Bourgogne ou de Franche-Comté?
Oui, c'est comme ça qu'on va savoir.
Il y a des horloges sur toutes les mairies.
Confond
avec les gares.
Les gares.
Confond avec les gares.
Ah ouais, purée, dans mon esprit, je dis, mais ils sont bêtes ou quoi?
Moi, je vais dire cave à vin.
Mais une mairie horloge, à part avoir une.
C'est une mairie avec une horloge.
C'est Big Ben en fait.
Non, c'est pas Big Ben, c'est Petit Ben. C'est la version mairie locale, quoi.
Ouais.
Non mais cave à vin, ce serait trop cliché quoi. C'est la réponse à la con quoi.
Le
chat.
Ouais, mais c'est
en tout cas, toutes les réponses, c'est vraiment la France.
Je vous donne une indication, vous en faites ce que vous voulez, mais le chat a voté réponse C.
Qui est cave à vin.
Horloge.
Okay.
Mais ça peut pas être encore la réponse C. C'était déjà la réponse C avant.
Ah, oula, on est sur des strats là.
Tu connais pas les gens qui font le quiz à la con, toi. Non, ce genre de strats là.
Je crois que je vais rester sur D parce que je me dis c'est peut-être le moyen d'allier. Enfin voilà. Enfin,
l'utile et l'agréable.
L'utile et l'agréable, et surtout, manque de locaux. Du coup, on met la fromagerie dans la mairie, quoi.
Non, mais si t'avais le choix, parce que moi, si j'avais le choix, je ferais dans ma mairie, si j'étais maire, je ferais une mairie cybercafé. Ah. Là, on pourrait jouer, on pourrait faire des petites LAN, des trucs.
Franchement, trop cool.
Parce que les mairies horloges, on se fait chier. Non, c'est utile pour les gens. Tu marches, il est quelle heure? Ah, tiens, j'ai une horloge. Mais. Ouais.
Mairie cyber. Moi, je ferais une mairie coffee shop. Mairie. La vraie bobo, tu sais.
J'avoue, moi, je vote pour
est-ce
la mairie cave à vin.
Mairie cave à vin, petite bouteille.
Je vote pour une mairie cave à vin. Et fromage en option si c'est possible.
Et cave à vin, fromagerie. Bon, allez, vos réponses.
Réponse D, du coup.
Réponse D pour Namou.
Réponse C, mairie horloge, pardon.
Réponse C pour Latifa, comme le chat.
B, cave à vin.
Réponse B pour Loumir, mairie cave à vin. La bonne réponse, mesdames et messieurs, personne ne l'avait, c'était la mairie Lavoir.
Non.
Et sans ouais. Loumir, elle avait bien commencé. Hein.
Ouais. Mais alors, pourquoi la Bourgogne et la Franche-Comté?
Eh bien, il y en a beaucoup là-bas.
Okay. On a les constaté... autres ne lavaient pas leurs vêtements.
Non, il y en a aussi ailleurs. Mais on a, voilà, vous avez un exemple, la mairie Lavoir.
Ah ouais.
Ça existe vraiment.
C'est pas mal.
Il y a une page Wikipédia, mairie Lavoir, si vous voulez, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Donc voilà, troisième question de ce quiz à la con. Devinez combien de mètres carrés fait la plus petite mairie de France. Il y a pas de proposition
de
réponse.
Ah, il y a pas. De... Ouais. Oula.
Vous devez donner une estimation.
Ah, et il y a à combien de mètres carrés près?
À un mètre carré près. Non, j'en sais rien. On verra. La plus proche gagne, oui, c'est ça, la plus proche gagne.
9 mètres carrés.
9 mètres carrés, ok. Ouais.
Un KGB, quoi.
Une mairie, ouais, bah ouais. Ouais, je te confirme.
6.
6 mètres carrés.
Non, c'est pas possible, même sur une île, c'est plus grand. Non, j'abuse. 20.
20 mètres carrés pour Loumir, ok.
Moi, je pense que c'est moins que ça, hein, ouais. Moi, je mettrais un petit. Même moins que 9.
Vas-y, combien?
Je sais pas, 5.
5 mètres carrés.
Mais l'autre jour, j'étais sur une île où il n'y a que 80 habitants.
Oui.
Superbe île bretonne de Édic.
Édic, bien sûr, j'y suis allée cet été aussi.
Eh bien, des gens ici présents se sont mariés à Édic récemment.
Trop bien.
Et il y avait donc une mairie, vu que c'était un mariage. Et la mairie faisait clairement au moins 20 mètres carrés.
J'ai vu la mairie d'Édic, elle n'est pas grande. L'école d'Édic, elle a de la gueule, par contre. L'église est immense, vu la taille de l'île. Mais t'as raison, non, mais t'as raison, c'est pas grand. Hein.
Tu vois, toute petite île, plus de 20 mètres carrés, c'est mon raisonnement. Ouais. Est-ce qu'il se vérifie?
Qu'est-ce que vous m'avez donné comme réponse? Je ne me souviens plus.
J'ai dit 5,
9.
5, 9.
20.
5, 9 et 20. La bonne réponse, mesdames et messieurs, c'est 8 mètres carrés. Bravo, Namou.
Wow,
pas loin du perfect. Pas loin du perfect. 8 mètres carrés. Voilà, vous avez la photo de la plus petite mairie de France.
Petite maison. La
commune de Saint-Germain-de-Pasquier n'avait pas de mairie. En 1910, le maire a alors décidé de faire de la chapelle Sainte-Clotilde une mairie.
Ah.
La mairie est donc une toute petite, comme vous pouvez le voir, mais il y a quand même tout ce qu'il faut. Comme dans une mairie traditionnelle, une vieille Marianne, un portrait du président et un isoloir.
Mais où font-ils les mariages?
Sur le trottoir.
Bah, ça suffit, 8 mètres carrés, ouais.
Ça suffit, ouais.
Tu prends les. Enfin, tu peux
rentrer. Il y a besoin de faire rentrer deux personnes, le maire,
les témoins.
C'est vrai.
Ok.
J'imagine un KGB, mais là, ça va en fait.
Ouais, 9 mètres. Ouais. Namou, elle est matricée par l'immobilier à Paris, je crois.
Non, c'est joli, moi je pense que c'est mignon. Mais alors, effectivement, comment tu vas faire changer ta carte d'identité, quoi? Je veux dire, c'est un process.
Ah. Tu vas dans la mairie, ouais,
tu prends ta voiture.
Mais moi, je me souviens quand je bossais en mairie, je considérais que le métier le plus formidable, c'était les gens qui sont à l'accueil de la mairie. La quantité de gens qui se présentent pour des problèmes qui n'ont rien à voir avec les compétences municipales, mais tu peux pas en vouloir aux gens parce qu'ils n'en savent rien. Et même nous, on a du mal, même nous, on galère à se rappeler de quoi la mairie est responsable par rapport au département, par rapport à la préfecture, etc. C'est vraiment, enfin voilà, l'accueil d'une mairie, c'est vraiment incroyable. Je recommande, faites-le. Quatrième question de ce quiz à la con. Avec plus de 35 000 communes, non, avec près de 35 000 communes en France, il se passe toujours des bizarreries aux élections municipales. C'était par exemple le cas en 2014. Mais qu'est-ce qui ne s'est pas produit dans ces élections? Parmi ces trois propositions, il y en a une qui n'a pas eu lieu. Les trois autres ont vraiment eu lieu. À vous de trouver laquelle. Réponse A. Une égalité parfaite entre deux candidats dans une commune du Haut-Rhin. Réponse B. Un taux de participation de 0% dans une commune du Perche. L'élection d'un mort dans une commune du Nord. Un score de 100% dans une commune du Loiret.
Ah, waouh! Qu'est-ce qui s'est pas passé, vous?
Ouais.
On connaissait les électeurs morts, mais les élus morts.
Alors, quand je l'ai dit, Loumire, elle a dit c'est sûr, c'est arrivé.
Ouais, ça me paraît hyper plausible.
Ah, mais moi aussi. Hein.
C'est-à-dire que.
Et après, je fais que de perdre. Alors, je sais pas si. Tu vois.
Après, oui, peut-être que ça peut être quelqu'un qui est décédé au moment des résultats.
Oui, c'est ça. Ouais.
Voilà, et t'as élu un mort comme ça.
Et c'est le choc de l'émotion.
Ouais, l'émotion de l'élection. C'est moche, quoi.
Qu'est-ce que tu fais s'il y a une égalité parfaite? Tu refais?
Non, je crois que les règles dans le code électoral, c'est que c'est le cadet qui est élu ou l'aîné, je ne sais jamais lequel
des
deux.
Ouais, c'est l'âge, ouais, qui départage.
Qui départage, ouais. Ce qui est complètement absurde, mais. Alors qu'on ferait ça à pile ou face, franchement.
Ça se voit, ils étaient en fin de journée quand ils ont décidé ça. Mettez l'âge. Mais ça serait, ouais. Alors,
le score de 100%.
Moi, je dirais 0%.
Toi, tu dirais 0%.
Improbable qu'il n'y ait pas
une personne qui
s'est déplacée. Une personne, genre le maire, tu vois. Il ne veut pas être réélu.
Ouais, c'est, oui, bah,
les gens qui tiennent le bureau de vote, ils sont pointés. Ils ont tenu le bureau de vote toute la journée. Ils n'ont même pas mis un bulletin.
Ouais. C'est vrai que tu as raison que je précise que s'il n'y a pas de candidat, de liste de candidats déposés en préfecture pour une mairie, il n'y a pas d'élection dans cette ville. C'est même pas la peine de. On ne met pas d'isoloir et tout, ça ne sert à rien.
Ouais, bah oui.
Donc,
bah, oui.
0%, ça veut dire que même les mecs qui ont déposé leur liste ne se sont pas présentés.
Ouais, c'est...
Alors que le score de 100%, s'il y a deux personnes et qui sont d'accord,
c'est possible.
Voilà, c'est bon.
Je vois, il est super dur ce quiz à la con.
Il est dur, hein.
Je fais une contre-performance totale.
D'habitude, c'est toi qui domines le quiz à la con, Latifa.
Non, pas forcément, mais voilà, je me débrouille. Là, j'ai aucune défense, j'ai aucune bonne réponse. C'est pas normal. Je suis pas venue jusque dans le Poitou pour me faire enfin,
ouais, délire. Enfin, d'habitude, j'y arrive pas des masses, mais je fonctionne un peu par la logique. Et... Alors que d'habitude, non. Et du coup, là, non, ça, le B, en vrai, ça te dit rien, toi.
Qu'est-ce qui ne s'est pas passé, quoi?
Ouais.
Qu'est-ce qui ne s'est... B, c'est quoi? C'est
participation 0%. De 0%.
Après, ça peut arriver. Enfin, je sais pas, je réfléchis, mais je me dis que ça peut arriver.
Mais tout est plausible.
Ouais.
Il est très con ce quiz à la con.
Il est très très con.
Allez, je reste sur le B moi.
Allez, réponse B pour Namou.
Moi aussi, bah là je suis Namou là.
Pareil.
Réponse B pour Latifa, réponse B pour Loumir, réponse B pour le chat. La bonne réponse, c'était la réponse B, bravo.
Allez.
0%. Effectivement, à notre connaissance, aucune commune n'a eu un taux de participation de 0%. Les trois autres réponses ont bien eu lieu. La commune de Ferrières-la-Petite a réélu pour son cinquième mandat un certain André Marchand qui est décédé 5 jours après le dépôt des listes. C'est donc sa première adjointe qui a été élue par le conseil municipal à sa place. À Danemarie, dans le Haut-Rhin, deux candidats ont reçu exactement 468 voix. Ils ont dû appeler la préfecture pour savoir quoi faire. Et à savoir, il y a eu un second tour pour les départager. Ah, c'était...
Ils n'ont pas pris le plus jeune.
C'est bizarre.
Ah, je sais pas, c'est bizarre. Mais ok, d'accord, un second tour pour les départager, c'est ce qu'il a fallu faire, d'accord. Et à Sandillon, dans le Loiret, un certain Gérard Malbeau a reçu 100% des suffrages exprimés avec 1417 voix.
Ah, oh, beau gosse.
Waouh, il est populaire, pas mal.
Je précise que c'était le seul candidat.
Ah, ouais, d'accord, moi, je me disais aussi.
Sauf quand même, un taux d'abstention de 90%, le mec est détesté. Mais juste comme personne ne s'est présenté face à lui, il a 100% des voix. Incroyable. Cinquième question de ce quiz à la con. Quel duel de candidats n'a, à notre connaissance, jamais existé lors d'élections municipales en France ? Réponse A, un père contre son fils. Réponse B, deux personnes ayant exactement le même nom et prénom. Réponse C, un homme contre son propre chien. Ou réponse D, un couple marié.
Non mais le chien.
Est-ce que... Chien.
Si c'est légal, c'est un problème. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose.
Il vérifie à la préfecture les cartes d'identité quand tu présentes une liste.
Oui.
Oui.
Bah oui, parce que tu dois signer ton acte de candidature, donc je vois pas.
Ouais, mais tu peux présenter un chien en te faisant passer pour.
Ah non.
En fait, non. En fait, la probabilité aussi des homonymes, des deux gars qui ont le même prénom.
Non, mais le chien, pardon, mais. Est-ce qu'on peut dire que si on vit dans un pays où un chien peut être élu, c'est un problème ?
Oui, 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 non, mais oui, non, mais oui, oui. Mais bon, je veux dire, j'en sais rien.
J'ai pas l'air paniqué à la potentialité que ce soit possible.
Il y a d'autres pays en Europe où c'est pas, je crois que c'est possible, mais parce qu'en fait, les élections sont plus honorifiques que chez nous. C'est un officier d'état civil, c'est un peu complexe, mais c'est déjà arrivé qu'on présente des moutons, qu'on présente des tortues et que les gens votent pour les lire, et c'est une manière de se moquer de
après,
l'élite politique.
Oui, parce que finalement, on a plein d'hommes politiques beaucoup moins sympathiques que des chiens,
ça c'est vrai. Mais c'est pour prononcer
il y en a deux, trois, je voterais pour le chien en face.
Hein. Bah oui,
sûr.
Mais effectivement, là, du coup, c'est le chien de l'homme qui se présente face à lui.
Se présente face à lui.
Oui, en plus, qui a pris la décision pour le chien? Il a auto-proposé son chien au scrutin.
Oui, non.
Là, excusez-moi, c'est trop gros, là. C'est un peu doux que vous preniez pour la gauche. Des cons, là.
Je sais pas.
Il a voulu
présenter un clébard,
ouais, c'est vrai. Ouais. Prendre les voix du parti animaliste.
Exactement.
Ils sont trois.
Non, mais oui, non, c'est trop gros.
Mais les autres, vous en pensez
quoi? Tout le reste, c'est hyper possible. C'est hyper impossible. Un père contre son fils, normal. Un couple marié,
classique.
Ils ont besoin de mettre un peu de piment dans... relation.
Chacun avec sa propre étiquette.
Chacun son étiquette et on se retrouve dans le lit. Ouais, ouais, non, pas mal.
Pour avoir qui est qui. Et sinon, après, homonyme, bah, c'est
homonyme, ouais. Cru,
ouais, non.
Homonyme, ça a dû arriver, je sais pas.
Il y a juste une lettre qui change.
Je regarde ce que le chat a voté. Le chat a voté le chien.
Okay. Ah bah, non, mais...
Le chat a voté le chien, réponse C.
Ah bah, réponse C.
Quelles sont vos réponses?
C'est
pour tout le monde? Comme pour le chat,
si c'est ça.
La bonne réponse, mesdames et
c'est
messieurs,
pas ça, pardon.
C'était la réponse C, bravo. L'homme contre le chien, à notre connaissance, ça n'est jamais arrivé. Par contre, les autres cas de figure ont bien existé. À Aumont, dans le Nord, un père qui était maire sortant a affronté son fils aux élections de 2020.
Ils ont la même tête.
Sur fond de conflit familial très dur, c'est finalement le fils qui l'a remporté à 53% contre 47%.
La relève.
L'ambiance de merde.
Waouh. À Noël, ça devait
après,
être sympa.
J'avoue que si mon père il mettait des doudounes fines comme ça, moi aussi, je me présenterais contre lui.
Sans manche.
Elles disent quelque chose politiquement, ces doudounes. Mais bref, on en reparlera.
On en reparlera. Mais on sent qu'il y a de la revendication, là. Donc ça, c'est vraiment arrivé. En 2020, au Bacarès, dans les Pyrénées-Orientales, le maire sortant a dû affronter sa femme avec qui il venait de se séparer.
Non.
Waouh.
Bah encore mieux.
Oh, j'adore. C'est finalement le maire sortant qui a remporté l'élection, sa femme n'obtenant que 30% des suffrages et lui 60%.
Franchement, c'est
et là vous
incroyable.
Allez me dire Danny Boone, il a pas fait de film avec ça.
J'avoue Danny Boone, qu'est-ce que tu fous?
Tu leur donnes des idées là.
C'est un scénario incroyable. Il y a bien deux candidats qui ont porté le même nom, c'était Bernard Charrier en 89. Et devinez quoi? C'est Bernard Charrier qui a gagné.
Incroyable.
Comment ils ont su pour les départager? Le nom de la liste?
Oh non, je voulais voter pour Bernard Charrier.
Les autres membres de la liste, j'en sais rien.
Tu sais, quand on dit sur un malentendu, ça peut marcher.
C'était déjà arrivé, toi, un homonyme? Loumir?
Moi, un homonyme Loumir, non.
Loumir l'après, non.
Mm-mm, jamais. Jamais rencontré d'autres Loumir.
Non, déjà. Je sais pas, vous, ça vous est déjà arrivé? Aux élections, non. De vous retrouver face à vous-même?
Non.
T'as déjà été candidate, Namou, à une élection?
Jamais.
Non, jamais.
Peut-être au délégué de classe, peut-être, mais
ouais.
C'est le plus loin que j'ai fait.
Moi, j'ai été giga élu délégué de classe. Ah, carrément.
Ah ouais, tout le temps, chaque année.
Je siégeais au conseil d'administration et tout.
Ah, moi aussi.
En même temps, j'avais organisé les blocus et tout, donc forcément.
Oh. Ah, j'avoue, le conseil d'administration du collège, c'était.
Et toi, Latifa, candidate?
Non, le Max, élu au conseil d'administration de mon collège.
Conseil d'administration du collège. Ok, d'accord. Et toi, je rappelle que tu as été candidate NUPES en 2022.
Tout à fait, mais j'avais aussi été déléguée. Sauf en quatrième, où je n'avais pas été élue. Il y avait une mutinerie.
Merde. Il y a quelqu'un qui t'était passé devant.
Bah ouais, en plus j'avais fait une très mauvaise campagne. J'avais vraiment fait campagne sur, vous savez, parfois on vous dit le changement c'est bien, mais en fait pourquoi changer une équipe qui marche ? C'était absolument pas inspirant. Ah, j'ai perdu.
C'était nul. Lumière, c'était nul. C'est Namou qui gagne ce quiz à la con.
Bravo.
Incroyable. Victoire de Namou pour ce quiz à la con.
Je crois que c'est rare. Donc j'en profite, je savoure.
Chers amis, nous allons continuer cette émission Backseat spéciale congrès de l'Association des maires ruraux de France en accueillant le président de cette très belle association. Un tonnerre d'applaudissements pour Michel Fournier. C'est pas vous ? Pardon ?
Plus d'applaudissements.
Plus d'applaudissements, on vous applaudit. Non, mais il faut venir, hein. Michel Fournier, donc président de l'Association des maires ruraux de France depuis 2020. Maire de Voivre dans les Vosges. Les Voivres. Merci beaucoup. Prenez le micro qui est devant vous. N'hésitez pas à bien le tenir devant votre bouche. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. On est très heureux d'être ici en direct du congrès de votre association. Ça se passe bien, il y a du monde. Vous y retrouvez l'atmosphère que vous y cherchiez ?
Ah ben, la journée, la première journée, on ne peut pas dire que ça se passe mal quand même. Hein. Et quand on voit un peu le nombre de participants, le nombre de maires qui se sont déplacés, et puis l'organisation ici, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc je voudrais féliciter, j'en profite quand même, Cyril Sibert, qui est la cheville ouvrière au niveau du département, et puis bien entendu nos équipes à la MRF. Mais je voudrais aussi remercier les différentes personnalités qui nous ont rejointes ce matin, parce que ça donne aussi un crédit.
Vous aviez qui comme personnalité ce matin ?
Ben, il y avait déjà moi, en toute modestie.
Tout à fait.
T'as une autre question ?
Tout à fait. Non, je crois qu'il y avait la présidente de l'Assemblée nationale.
Il y avait la présidente de l'Assemblée nationale. Il y avait le président du Sénat. Et il y avait Françoise Gatel, ministre de la Ruralité, démissionnaire.
Démissionnaire, absolument. On va parler des maires ruraux avec vous. L'année prochaine, 2026, année d'élection municipale, une année importante pour les élus locaux, pour les maires ruraux. Comment vous la sentez, quelle est l'atmosphère de cette élection municipale selon vous ?
Écoutez, j'ai suffisamment d'expérience, je ne sais plus combien de mandats j'ai, pour savoir que même dans un village de ma taille, 300 habitants, j'ai toujours eu, depuis que je me suis présenté, depuis 83, il y a toujours eu deux listes. Et j'ai toujours eu une liste contre moi. D'accord ? Pas par rapport à ma personne spécialement, par rapport au projet que l'on mettait en place. Et les projets étaient non pas à la taille de la commune, mais des projets très, très importants, et financièrement, et de changement d'habitude dans les têtes. Ça veut dire que si on intéresse nos populations, et si on crée des défis, si on essaie de faire rêver, eh bien, il n'y aura pas de problème d'engagement. Mais effectivement, si aujourd'hui, on pense que la fatalité doit exister, je pense qu'il y aura un problème d'engagement. Mais
vous voulez dire que c'est de la responsabilité des maires de susciter de l'engagement ? Il n'y a pas un problème quand on voit
non,
que 2189 maires
seulement,
ont démissionné ?
Non, les maires démissionnaires, il y en a, c'est une réalité. Mais il y en a toujours eu, il y en a un peu plus, voilà. Il faut aujourd'hui, pour un maire, avoir un peu le cuir tanné. Et si c'est ton premier mandat, eh bien c'est un peu difficile parce qu'il faut déjà pratiquement un mandat, pour comprendre quel est le fonctionnement de notre République. C'est très très dur aujourd'hui. On a complexifié les choses d'une façon telle qu'au départ, quand je voulais monter un projet dans ma commune, le projet, recherche de subventions, création du projet, démarche technique, etc. Allez, un an et demi, deux ans. Aujourd'hui, c'est un mandat. C'est ça la difficulté. Donc, il y a un problème d'engagement général de nos populations pour le faire vivre ensemble. C'est aussi vrai dans l'associatif, d'ailleurs. Hein. Dans l'associatif, on a un trou d'air à l'heure actuelle. Et donc, tout cela doit le convide à accélérer les choses. Mais tout cela doit maintenant se remettre. Et je pense qu'il y aura des candidats, il y aura des candidatures. Et puis peut-être qu'après ces candidatures, devant la difficulté, ben, y a des gens qui se poseront la question. Mais je suis confiant. Franchement, je suis confiant.
Latifa ?
C'est vrai que les maires ruraux sont quand même confrontés à pas mal de difficultés. On en reparlera peut-être plus en détail par la suite. Mais vous plaidez, vous, pour un statut d'élu local. Et je sais que le texte avait été reporté encore avant l'été. Où est-ce qu'on en est de cette réforme ? Et je sais que c'est quelque chose sur lequel vous êtes particulièrement engagé, que vous appelez de vos voeux depuis quelques années maintenant.
Vous avez raison. Depuis quelques années, presque de trop nombreuses années.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce que vous demandez quand vous demandez l'existence d'un statut d'élu local ?
Alors, on ne va pas refaire l'histoire, la ruralité aujourd'hui, la preuve en est, regardez le nombre de personnes qui viennent, le nombre de partenaires que nous avons, les médias, vous faites partie. Je ne vous ai pas vu il y a 5 ans, vous n'existiez peut-être pas. Oui, mais il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas vus il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la ruralité semble être une réponse pour beaucoup de nos concitoyens. Mais une ruralité qui soit vivante, une ruralité qui soit culturelle, une ruralité qui permette effectivement de se sentir à égalité dans le traitement par rapport au service à celui qui se trouve dans une urbanité. Alors le statut de l'élu, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'obligation de reconnaître que la fonction de maire, même d'une commune comme la mienne, 300 habitants, est très chronophage. Et vous pouvez difficilement aujourd'hui, et je pense à... Moi, je suis en retraite, c'est un peu différent maintenant, mais j'étais indépendant toute ma vie. Je peux vous dire le sacrifice que ça a représenté financièrement, socialement, etc., etc. Je ne suis pas là pour me plaindre, moi, c'est pas mon genre. Mais toujours est-il que si on veut que des jeunes s'engagent, et cette table, voilà, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir exercer une activité professionnelle et une activité complémentaire, ou le contraire, l'activité professionnelle complémentaire de la fonction d'élu. Donc le statut de l'élu, c'est ça. C'est la demande de dire qu'il y ait une vraie reconnaissance, pas fait seulement par rapport à l'indemnité, il y a déjà eu des progrès de fait, mais quand même, aujourd'hui, il n'est pas normal que le maire d'une commune en dessous de 500 habitants soit avec une équivalence d'un demi-SMIG. En étant présent 24 heures sur 24, en étant avec une responsabilité, n'oublions pas qu'on a le pouvoir de police, etc. Donc nous avons travaillé énormément pour faire améliorer ce statut. Alors où on en est ?
Pourquoi ça passe pas en fait au niveau national et
ça a encore été repoussé cet été.
Oui, ça a été repoussé. Alors on agit pour que ça ne le soit plus. On a obtenu de François Bayrou, on peut dire même j'ai obtenu, qu'on puisse avoir dans la session extraordinaire de début juillet que, effectivement, à l'Assemblée, ça puisse passer. Parce que vous savez, il y a le circuit...
Oui, bien sûr, la navette législative.
Et aujourd'hui, on a la certitude, d'ailleurs Gérard Larcher l'a confirmé, que début octobre, ça va passer au Sénat, et du Sénat, ça repassera à l'Assemblée, et on pense que raisonnablement... novembre, ce sera acté. Ça sera un
On croise les doigts, c'est pas encore fait, parce qu'il faut encore l'inscrire à l'ordre du jour, il faut que le nouveau gouvernement l'inscrive.
Oui, mais on va faire en sorte que ça soit inscrit. Les deux présidents qui étaient là, effectivement, nous ont quand même apporté des garanties sur cette volonté de l'inscription. Il ne faut pas oublier, ils ont une responsabilité, que ce soit Gérard Larcher ou Yaël, Braun-Pivet. Elles peuvent apporter un plus en obligeant certaines, dans des espaces, dans des niches, de dire il faut que ça passe.
Et j'ai entendu effectivement le Premier ministre, je crois, qui veut qu'avant les municipales, ce soit réglé.
Oui, oui, oui. Et puis surtout, il faut que le Premier ministre, ça soit réglé avant qu'il ne soit plus Premier ministre.
Parce que c'est ça la
problématique. Je ne lui souhaite pas, mais c'est la problématique. Aujourd'hui, on se pose tous la question en se disant, OK, il faut que les choses se mettent en place. Mais justement, ce que l'on peut regretter, c'est que la proposition qu'avait faite Françoise Gatel, elle date de 2023, début 2024, quand elle était sénatrice. Donc vous voyez, il y a que déjà eu ce... Alors que ça devrait être classé, point, quoi.
Lomir.
Mais on a confiance.
Vous parliez d'engagement et aussi des difficultés qu'il peut y avoir à concilier une vie professionnelle et une vie d'élu. Il y a seulement 17% des maires des communes rurales qui sont des femmes aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est le cas et qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire collectivement pour qu'il y ait plus de femmes maires ? aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à préciser quand même qu'il y a plus de femmes mères dans des communes rurales que dans des communes urbaines. C'est important quand même.
Oui. Alors, vous n'avez peut-être pas suivi l'actualité récente, parce qu'on s'est fait fouetter par beaucoup de nos collègues, dans la mesure où on a été la MRF, mais pas seulement seul, hein, l'AMF également. On a été volontaire pour faire en sorte que dans les communes de moins de 1000 habitants, il y ait l'obligation d'une liste, l'obligation de la parité dans ce cadre-là. Et j'ai suivi. Donc, pardon ?
J'avais suivi, oui.
Hein, oui, donc ça c'est important, ça va être un accélérateur. Et effectivement, la représentation après ça sera différente.
Donc mais on aura des conseils municipaux mixtes.
Oui, mais pour oui, oui, bien sûr. Mais pourquoi les femmes sont souvent plus réservées par rapport à cela, par rapport à l'engagement? La différence essentielle, ça va pas plaisir aux mecs qui sont là. Hein. La différence essentielle, c'est que les femmes, elles ont souvent une forme, je le dis parce qu'on le rencontre, une forme de complexe, un peu. De timidité. Est-ce que je vais y arriver? Elle se pose toujours la question. Est-ce que je vais y arriver? Parce que, est-ce que je serai à la hauteur? Et surtout dans la conception, il y a trois femmes là. Hein, et dans cette conception-là, si moi je fais quelque chose, si moi je m'engage, je veux aller au bout. Moi je veux être sûr que je ferai bien, etc., etc.
Ce que vous voulez dire, c'est que les hommes, même moins compétents, n'hésitent pas à se présenter. Ils ont moins de complexes.
Les hommes ne se posent pas de questions.
Non, mais après, c'est comme dans la vie
professionnelle
culturel, normale. Ce qu'on dit, par exemple, quand il y a une offre d'emploi, une femme va considérer qu'elle va devoir répondre à 80% des critères pour envoyer sa candidature, tandis qu'un homme, s'il voit qu'il a 30% des critères, il va l'envoyer sa candidature. Voilà. Et c'est la même dynamique qu'on retrouve ici pour les candidatures.
Pareil. Ça veut dire qu'il faut vous prendre en main. Et il faut surtout...
Oui.
Ben oui, ben si. Il faut surtout...
Oui,
ben si.
Les meufs, présentez-vous aux élections municipales.
Voilà, voilà, mais c'est...
Non, vous
restez
moins.
Yael l'a souligné encore tout à l'heure. Mais en fait, il faut avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est se dire, OK, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite, mais ça ne fait rien, il faut que je tente le coup. Et n'oubliez jamais une chose.
Si vous saviez le nombre d'hommes imparfaits qui se présentent.
Hein ?
Si vous saviez le nombre d'hommes imparfaits qui se présentent.
Il y en a aussi des parfaits, il ne faut pas pousser, toi.
Oui, oui, oui.
Mais c'est quoi ? C'est François Giroud qui disait la vraie parité ou l'égalité, c'est quand on mettra une femme incompétente à un poste d'homme compétent ou à la place, quoi. Donc c'est.
Oui, c'est une façon de regarder les choses.
Non, mais voilà. Fin...
Je voulais vous demander si la réforme du mode de scrutin pour les communes de moins de 1000 habitants était une bonne mesure.
Ben, je viens de vous répondre.
D'accord.
C'est une bonne mesure dans la mesure où... Je vais prendre mon exemple. Il y a toujours eu deux listes dans ma commune, je vous l'ai dit, depuis 83, d'accord ? Parce que j'ai monté une liste contre le maire sortant à l'époque et je suis maire depuis 89. J'ai toujours eu la parité. Et j'ai 300 habitants.
Donc c'est possible, en fait, si on veut.
En ce moment, j'ai trois adjointes, c'est trois femmes. Alors, je sais aussi, je ne sais pas si elle est là, Nadine Kersaudy. Nadine Kersaudy, qui est présidente des maires ruraux du Finistère. Quand elle a vu cette nouvelle proposition de loi pour les moins de 1000 habitants, elle s'est dit, moi, je suis emmerdée, je n'arrive pas à trouver des hommes. Donc, vous voyez les situations. Pas, ouais. Alors, faire croire ou faire penser que ça sera difficile, etc., il y aura des difficultés. Quelquefois, c'est vrai, pour certains, on en est conscient. Mais le Sénat a répondu à la question. Le Sénat a permis à ce que, normalement, dans une commune de moins de 100 habitants, à la place de 7 nécessaires pour que la liste soit validée, il peut y avoir 5 personnes. Et si on n'est pas capable de trouver dans une commune de 100 habitants, de moins de 100 habitants, 2 femmes, eh bien, la commune n'a plus de raison d'être. Ça peut être aussi simple que ça. Et ça, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde.
Je veux bien le croire.
Non, c'est intéressant. Ça ne vous échappe pas, il y a actuellement des négociations dans le bureau du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a la difficile tâche de trouver un budget. Et on sent que la soupe risque d'être amère pour les collectivités locales qui risquent de recevoir un nouveau tour de vis budgétaire. Est-ce que ça vous inquiète, vous qui êtes président de la MRF, est-ce que les communes vont devoir payer ?
Alors, l'inquiétude, ce n'est pas forcément sur les communes rurales. Je m'explique. On a l'habitude de faire souvent avec des bouts de chandelle. Voilà. Donc on se débrouille et on essaie toujours de se débrouiller. La difficulté, ça va être par rapport à des collectivités et autres départements, régions ou interco qui auront effectivement, qui sont souvent, qui accompagnent nos projets et qui ont, si elles ont moins de moyens, eh bien on le voit, il y aura forcément moins de services, moins d'aides, de subventions, etc. C'est ça la difficulté. Mais en ce qui concerne notre fonctionnement à nous, si on... Je vais être plus, encore plus direct. Hein. Ce matin, vous n'avez peut-être pas entendu, mais on ne supporte plus qu'un citoyen en ruralité vaille deux fois moins qu'un citoyen en urbanité. Ça, c'est plus possible. Donc, ça veut bien dire que si, effectivement, on se répartissait les moyens d'une façon non pas, pas équitable, juste, liberté, égalité, fraternité. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, depuis des décennies. Donc, si notre DGF, la dotation générale de fonctionnement, était réévaluée, regardée, énormément de communes rurales se retrouveraient avec une bouffée d'air et un ballon d'oxygène, je peux vous le dire.
Mais est-ce que l'État en aura les moyens? Ça, c'est tout.
Non, il n'y a pas besoin de moyens.
Ah, c'est juste la péréquation.
C'est une péréquation, ouais, c'est à somme constante.
Mais j'ai
donc,
pas compris.
Voilà, donc on n'aura pas de problème particulier si on va dans ce sens-là.
Namo?
Du coup, ça fait maintenant 5 ans que vous êtes président de l'Association des maires ruraux de France. Quel bilan vous pouvez faire aujourd'hui de toutes les actions que vous avez pu entreprendre? Et est-ce que vous pensez continuer justement cette fonction? Qu'est-ce que vous imaginez pour le futur?
Alors, je suis à l'Association des maires ruraux de France depuis 1992. D'accord? J'étais successivement secrétaire général, vice-président et le premier vice-président avec Vanik Berberian, notre ancien président. Aujourd'hui, je suis président. Demain, on verra. Ce qui est sûr, c'est que je me représente. Déjà, que ça soit clair.
OK. C'est clair.
Ça, c'est clair. Voilà. Et ce qui est clair aussi, c'est que on a vu l'évolution. Lors de cette mandature, quand il y avait déjà, de par l'activité et la personnalité de Vanik Berberian, il y avait une progression de notre structure qui a été plus forte. Il y a eu un accélérateur par rapport à lui, par rapport au groupe autour de lui, d'accord? Aujourd'hui, cet accélérateur, il est en pleine progression. Pensez qu'au début du mandat, nous avions 8000 adhérents. Nous en sommes à 13 500. Ça veut bien dire qu'on correspond à une demande, à un besoin, et que ce besoin, beaucoup se retrouvent chez nous par rapport au fait qu'on vit les choses. Nous, on vit les choses au quotidien. Je l'ai dit encore ce matin. Quand il y a une vache qui est lâchée, on te téléphone au milieu de la nuit. Il y a deux vaches qui sont lâchées. C'est le maire. Tu parles, j'arrive plus à courir, moi. C'est le maire qui doit rentrer les vaches. C'est le maire qui doit récupérer le chien. Non, mais attends. Mais je veux dire, on est à Poitiers ici. Hein. C'est pas la maire de Poitiers qui va courir après une vache ou après le chien. C'est la réalité du quotidien, ça. Donc, c'est comme cela. Et voilà. Les gens viennent chez nous, à domicile. Ah ben, Michel, attends, je suis emmerdé. Tu sais que j'ai... Ah ben, attends, t'as vu l'heure qu'il est? Ben oui, non, mais enfin, voilà. C'est ça, notre vie, au quotidien. Et donc, ça, c'est chronophage aussi. C'est chronophage dans nos têtes aussi. Ça veut dire qu'il nous faut, à un moment donné, nous libérer. C'est pour ça que j'aime bien la Mirabelle.
Dernière question. Le maire, c'est l'élu préféré des Français, on le sait. Hier, il y en a un autre élu qui a été condamné, un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, condamné pour association de malfaiteurs. Il ira bel et bien en prison. Qu'est-ce que ça vous évoque sur l'image des élus, sur la déconnexion qui peut exister entre certains, entre de très nombreux citoyens et leur politique, quel qu'il soit?
Alors... C'est une question qui nécessiterait une réponse avec une langue de bois.
Vous n'êtes pas obligé.
Mais je ne suis pas obligé. Ouais. Toujours est-il qu'il y a deux choses. Je suis d'accord avec le président du Sénat. Aujourd'hui, la condamnation du président Sarkozy, elle est sujette à un appel, à une potentialité d'appel. Dans ce cadre-là, notre façon de faire la justice, c'est de considérer que tant qu'on n'est pas au bout, les gens sont présumés innocents. C'est clair, ça. On voit que dans ce cadre-là, il y a un effet politique certain par rapport à ce que l'on sait qu'il y a une demande d'emprisonnement dans quelques jours, qui n'est des fois pas demandée par rapport à d'autres infractions ou autres par rapport à des citoyens plus classiques.
Dans le cadre d'un tribunal correctionnel, c'est assez courant quand même.
D'avoir
une exécution provisoire et un mandat de dépôt.
Oui. Je peux vous dire que nous, constatant quelquefois les actions... Il est où le maire de... Varzi, il est où? Il est là?
Pourquoi il a fait quoi?
Je vais vous prendre un exemple. Non, mais à un moment donné, il faut aussi savoir les choses. Le maire de Varzi, président... Il n'est pas là, Gilles Noël?
De toute façon, on n'aura pas,
président de l'association des maires ruraux. Non, non, mais voilà les réalités. Il y a quand même des fois un regard de la justice qui peut être un peu différent. Il a eu affaire à un rodéo moto dans sa commune, d'accord? Il en a marre de voir les jeunes, parce que ce sont des jeunes, qui passent en moto sur une roue, etc., etc. Il dit, non, ça ne peut plus durer. Il sort de la mairie et il dit, maintenant, ça suffit. Ça fait un quart d'heure, une demi-heure que vous faites ce rodéo, ça suffit. Les jeunes ne s'en occupent pas. C'est une commune de 1000 habitants, hein. Le maire, il est connu, ce n'est pas son premier mandat. Hein. Eh bien, le maire, pour pouvoir faire en sorte de mettre fin à ce rodéo, il se met au milieu de la route. Il se met au milieu de la route pour arrêter physiquement, entre guillemets, le rodéo. Un des jeunes n'accepte pas cette demande d'arrêt et fonce sur le maire. Et bien entendu, il a juste le temps de se retirer, mais en se retirant, il accroche le jeune avec sa moto. D'accord? Le jeune, il tombe. Il tombe avec la moto. Il a quelques ecchymoses. La famille porte plainte. Le maire est condamné. Le maire est condamné. Il est condamné. On l'a mis en garde à vue pendant 48 heures. On lui a demandé. Et finalement, ça s'est passé comment? Eh bien, il a négocié avec la justice pour ne pas... comment dirais-je, pour ne pas être, entre guillemets, emprisonné, parce qu'il y avait cette... C'est ça, le traitement.
Ça ne répond pas à ma question sur Nicolas.
Si, ça répond à votre question. Ça veut dire qu'il y a des appréciations qui, quelquefois, dans le cas de figure que vous voulez évoquer, qui peuvent être assez étonnantes. Moi, je n'ai pas les compétences de dire il y a une culpabilité, il n'y a pas de culpabilité. Ce que je sais... C'est que quand, à partir de l'instant où effectivement, mais c'est pas le seul, hein, il y a eu d'autres exemples auparavant. Hein. Il n'y a pas eu un certain Cahuzac là, faut le dire aussi.
Bien
hein.
sûr.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce genre de procès légitime, ce genre d'initiative qui est faite donne une image globale des politiques qui est complètement.
Vous pensez que le problème, c'est le procès? Le problème, c'est plutôt Nicolas Sarkozy et qui fait ce dont il est accusé, plutôt que le procès qui vient rétablir la justice. Enfin, bon, après, ça, on peut en débattre.
Non, mais... non, j'ai rien contre le procès. Je ne suis pas à même de juger et je n'ai pas à faire de commentaires sur le procès. Je dis simplement...
Mais sur l'image des élus.
Sur l'image des élus globale, d'une façon globale. Eh bien, et là, heureusement, les maires ruraux échappent à ça. Parce qu'on a la proximité et on sait que nos moyens sont modestes et que si voilà, il y a un détournement chez nous, ça va être un ster de bois.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel Fournier. Vous pouvez l'applaudir très fort. Michel Fournier, président de la MRF, d'être venu sur ce plateau. Je vous laisse quitter le plateau. Je vous laisse y aller, allez-y. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette interview, notre invité actu. Au revoir. Qu'est-ce que je voulais dire? On est toujours en direct ici du congrès de l'association des maires ruraux de France qui nous accueille pour cette émission spéciale ruralité. On va parler de l'actualité de la semaine. C'est parti pour l'actu de la semaine. Et l'actualité cette semaine, elle a été marquée, évidemment, on vient de l'aborder avec notre invité actu. Elle a été marquée par la condamnation de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à 5 ans de prison, entre autres, pour association de malfaiteurs assortie d'un mandat de dépôt différé et d'une exécution provisoire. L'ancien président Nicolas Sarkozy va bel et bien dormir en prison. Il a dit qu'il dormirait en prison la tête haute.
Ça ne va pas être confortable, hein. Faut qu'il fasse attention.
Ouais, mais ça peut être bon pour l'apnée du sommeil. Qu'est-ce que ça vous a évoqué quand vous l'avez appris ? Ça vous a surpris ou pas ?
Non.
Non, Loumir ?
Bah, non, je veux dire, quand on a plus d'une dizaine d'affaires qui nous suivent depuis plusieurs années, c'est pas surprenant qu'il y en ait une qui finisse par le rattraper. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il est effectivement... Enfin, j'attends encore de voir la nuit en prison. Mais c'est comme pour l'affaire Balkany. C'est toujours surprenant quand... une fois, à un moment, une personnalité politique finit par payer. Quand on voit ce que des citoyens normaux, nous, on fait la moitié, un tiers, un quart de ce qu'ils font, tu peux être sûr qu'on va en taule. Hein. Enfin, c'est sûr. Et c'est normal. Je veux dire, à partir du moment où tu enfreins la loi, il n'y a pas de sujet. Mais je trouve ça toujours fou de se réjouir que justice soit faite. Face à des politiques, parce qu'on a fini par accepter que l'impunité finalement est la norme. Et ça, je trouve que c'est vraiment très grave.
Ouais. Latifa.
Moi, ce qui est inquiétant, c'est plus les réactions forcément de la droite et de l'extrême droite. C'est encore un moment où Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen convergent là-dessus, mais c'est le fait de tout à coup en fait, enfin on peut discuter des décisions de justice sur le fond. On peut échanger, etc. Voilà, on est dans un état de droit, il y a une liberté d'expression, etc. Mais en fait, jeter la suspicion sur l'autorité judiciaire ou sur des juges en particulier, etc., c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et en fait, on a l'impression que... forcément, encore une fois, on a une genre de trumpisation de la vie politique où on est là en train de dire, finalement, ça ne compte pas, alors que les juges, quand même, et leur indépendance est extrêmement important et c'est fondamental. Ils rendent des jugements qui sont motivés. Enfin, je veux dire, là-dessus, on a 400 pages de jugement, quand même, sur cette affaire. On a 400 pages de jugement, c'est extrêmement circonstancié, extrêmement précis. Et en fait, on va remettre en question ça, alors que quand Loumir l'a dit, pour le citoyen lambda qu'on fait le quart de ça, évidemment, ils vont en prison, ou alors c'est toujours la même personne, soit de droite ou d'extrême droite, qui vont trouver justifié de dire Naël, pour ne pas le nommer, un gamin qui se fait tuer parce qu'il a conduit sans permis, etc. Ils vont trouver 10 000 manières de le justifier. Mais en revanche, là... 13 ans d'instruction, je crois que c'est ça, hein, sur cette affaire, enfin des révélations de Ménapart, 13 ans d'instruction, un jugement des enquêteurs pour parvenir à ce jugement-là, effectivement, qui est, il a fait appel, Nicolas Sarkozy. Ça montre encore une fois ce que tu as dit, en fait, le décalage entre la population et les politiques de la part d'une partie de la catégorie, de la classe politique qui, quand même, a renforcé extrêmement la justice et sur un point de vue hyper carcéral. C'est ça aussi qui interpelle. Donc, c'est-à-dire que ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la justice, c'est pour tout le monde, à part pour eux ?
Sauf pour eux, oui.
C'est pas possible.
Oui, elle est toujours laxiste, mais sauf pour eux, en fait. C'est ça qui est fou, je trouve. Tu es sur les plateaux de télé à longueur de journée, on nous parle de la justice trop laxiste, et au moment où justice est faite, on annule tout, les juges sont de gauche, c'est la dictature des juges. Et tu dis, il faut savoir, en fait, c'est trop laxiste ou c'est trop dur.
Ouais, c'est exactement ça. C'est des hommes et des femmes politiques qui ont l'habitude de toujours prôner plus de dureté, plus de sanctions pour les gens lambda. Et par contre, une fois que c'est... Mais de toute manière, on en avait parlé longuement avec Fabrice Arfi sur le plateau de Backseat, justement, où en fait, c'est un jeu très dangereux auquel ça donne en fait nos hommes et nos femmes politiques, parce qu'ils participent aussi à mettre en place une sorte de logique un peu complotiste qui voudrait que les juges soient un peu contre eux systématiquement, parce que il y a quelque chose de très dangereux dans ce jeu-là, et tu viens de l'expliquer parfaitement, Latifa, et je pense aussi que malheureusement, quand on voit aussi dans des plateaux de télé des bandeaux qui expliquent est-ce que la justice a été trop sévère, ça participe à ça, en fait. Ça participe à se dire, à décrédibiliser en fait ce jugement et l'indépendance de la justice.
Oui, il y a un truc que je trouve intéressant dans la période, c'est l'union des droites. Une fois de plus, le cordon sanitaire est rompu. Quand on voit que Marine Le Pen vole au secours de Nicolas Sarkozy sur la question de l'exécution provisoire, évidemment, elle pense à elle-même en le disant. Mais je trouve que c'est intéressant parce que là aussi, il y a un énorme décalage dans le comportement du Rassemblement national par rapport à son histoire. Le Front national de Jean-Marie Le Pen se faisait... se moquait en permanence de l'affairisme de la droite RPR et UMP. Pendant des années, Marine Le Pen, en 2012, accusait Nicolas Sarkozy de tremper dans des affaires, etc. Et aujourd'hui, ça, elle a complètement changé. Elle s'est normalisée au sens où elle est devenue une politique normale de droite qui défend l'affairisme, qui défend les personnes condamnées par la justice.
Ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je l'ai pas mal étudié dans mon livre sur la question de... comment le RN morphe, qu'au début, il est, quand il est sous la coupe de Jean-Marie Le Pen, extrêmement libéral et il prend vraiment ses racines dans le Sud, qui est largement structuré par la guerre d'Algérie, en fait, et ses héritages. Puis après, c'est Marine Le Pen qui vient et qui prend la tête avec un côté beaucoup plus anti-système, l'UMPS, contre l'élite, et qui prend comme ça le Nord et l'Est, qui sont des bassins désindustrialisés qui votent majoritairement pour des raisons sociales. Et puis maintenant, la bascule qui sera faite doit être pour accéder à la présidence à la fois l'union des droites. Et ce n'est pas étonnant que ce soit Jordan Bardella et Marion Maréchal qui reprennent la tête, qui sont eux des libéraux. Et moi, je trouve ça quand même assez fascinant qu'au sein du RN, là maintenant tout de suite, cohabitent deux visions extrêmement différentes que sont celles de Marine Le Pen et celles de Jordan Bardella.
Les libéraux et les protectionnistes.
Les libéraux et les protectionnistes. Et que finalement, c'est autour de l'opportunisme politique que cette union des droites va finir par se faire pour des raisons judiciaires. C'est quand même assez extraordinaire quand tu réfléchis à toute l'infrastructure idéologique qui a été créée par le FN puis le RN, qui va finalement, en fait, cette union des droites, Marine Le Pen semble s'y ranger par opportunisme. Et c'est quand même, moi, ça me semble vraiment intéressant en cette période de normalisation et de banalisation de l'extrême droite.
Affaire à suivre, en tout cas, ce sera le 13 octobre que Nicolas Sarkozy aura rendez-vous avec le parquet pour que lui soit notifiée la date de son incarcération, la date et le lieu de son incarcération, son rendez-vous, si je puis dire, qui doit intervenir dans les 4 mois qui suivent, je crois. Bref, d'ici à Noël, Nicolas Sarkozy dormira en prison. On aura le temps d'en reparler, évidemment. L'autre sujet qu'on voulait aborder, c'est la suite de la mobilisation sociale. Il y avait eu Bloquons tout le 10 septembre. Il y avait eu la grande manifestation de l'intersyndicale le 18 septembre. L'intersyndicale qui appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 2 octobre, après sa rencontre infructueuse avec Sébastien Lecornu. Est-ce que vous pensez que le mouvement social peut prendre de l'ampleur? Est-ce que vous pensez que le froid va décourager les manifestants? Comment vous voyez un peu? Je sais que la météorologie des mouvements sociaux, c'est vraiment pas une science exacte. Mais là, je vous demande quand même de faire l'exercice. Qu'est-ce que vous en pensez?
Honnêtement, enfin... là, j'ai l'impression que le 10 septembre et le 18 septembre, on a vu une mobilisation qui a malheureusement plus ou moins pris. Et je pense que, en fait, justement, si ces manifestations, elles mobilisent pas plus de personnes, je pense que c'est aussi dû à tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que on a quand même eu des semaines, des jours avant, notamment la mobilisation Bloquons tout, où en fait on a les médias qui ont passé leur temps à se poser la question de est-ce que ce sera vraiment dangereux, est-ce qu'il y aura des black blocs. Alors, en fait, toutes ces choses, tout ce langage, ça donne pas forcément envie de descendre dans la rue, parce qu'on se dit on va forcément se faire gazer si on descend. Et donc il y a ça, et il y a aussi tout le schéma national
du
maintien de l'ordre qui est de plus en plus virulent sous Retailleau, et qui fait que forcément on sait que on va participer à une manifestation pacifique, et en fait, tôt ou tard, en fait, à une intersection, il va y avoir une charge pour X raisons. Et donc, forcément, ça n'incite pas forcément les gens à aller manifester. J'ai plein d'amis autour de moi qui avaient peur de ça, qui se sont dit, en fait, j'ai vraiment peur de finir en garde à vue, j'ai peur de me faire gazer, enfin... Et donc je pense que c'est ce qui aussi fait que les gens ont moins envie aussi de se mobiliser.
Loumir, toi tu penses que le mouvement du 10 et le mouvement du 18, c'était pas tout à fait les mêmes personnes?
C'est ce que j'ai vu chez moi. En tout cas, le mouvement du 10, c'est beaucoup plus gilet jaunesque, avec beaucoup d'anciens gilets jaunes qui se sont dit on va essayer de remettre ça. Là où il pas forcément les moyens de faire grève. Ils sont très peu syndiqués. Et le 18 est beaucoup plus organisé par la gauche, par des institutions comme les syndicats. Ce que je trouverais intéressant, c'est que ces deux mouvements se réunissent, mais ça, c'est, j'ai envie de dire, un travail qui aurait dû être fait depuis 2018 et qui malheureusement n'a pas été assez fait, de faire se rencontrer ces deux mondes, qui sont des mondes avec des habitus d'engagement qui sont différents, avec des profils sociaux qui sont différents, des âges différents. Et je trouve que vraiment autant bon, c'est mon travail, moi je suis activiste, je crée des campagnes, donc je crois vraiment dans l'infrastructure. Je pense sincèrement qu'un mouvement ne survit pas, ne gagne pas dans le long terme s'il n'y a pas d'infrastructure qui le soutient, s'il n'y a pas de caisse de grève, s'il n'y a pas de formation, s'il n'y a pas de recrutement. Et en même temps, force est de constater que l'approche un peu tradie des syndicats où on pose un préavis de grève, on fait grève et on fait une marche ne fonctionne pas déjà quand même pour créer du rapport de force en ce moment, et elle exaspère un peu des gens qui ont l'impression, eux, de ne plus avoir la patience, en fait, de faire partie de ces marches, ne comprennent pas la stratégie de construction de rapport de force.
Par rapport au 10 septembre, je veux dire, en nombre de personnes mobilisées, l'intersyndicale a mis une vitesse quand même au mouvement gilet jaunesque.
Ben, c'est là où je pense que ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Enfin bon, d'accord. Voilà, typiquement, moi j'étais dans les deux endroits, j'ai fait les deux. Mais si je regardais, par exemple, dans l'un, sur les groupes Telegram anciens gilets jaunes où j'étais, les gens ne faisaient pas grève, mais parce qu'ils ne sont pas syndiqués, parce qu'ils sont en intérim, parce qu'une journée de grève, ça coûte cher, et il n'y a pas de caisse de grève. Et c'est là où je pense que si on avait plus fait ce travail de faire se réunir ces deux populations, alors ces personnes-là, soutenues par les institutions que sont les syndicats, oui, notamment par des caisses de grève, auraient pu, et par la meilleure connaissance de leurs droits aussi, parce qu'il y a une vraie absence de connaissance de ce que c'est le droit du travail, surtout quand tu es intérimaire, quand tu es en temps partiel, quand tu es en travail haché. Les gens ne savent pas ce qu'ils ont le droit de faire, ne savent pas comment on dépose un préavis de grève, etc. Et si tu n'es pas syndiqué, ce qui est quand même le cas, il n'y a que 4% par exemple des gens qui travaillent dans la logistique, qui emploie majoritairement chez moi les gens qui sont syndiqués. Donc en fait, c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à le savoir, quoi.
Latifa ?
Oui, moi j'étais surprise par contre du 18 septembre. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde. Je m'attendais clairement pas à ça. Peut-être que c'était le fait que ce soit après le 10 qui était dont on a parlé hyper longtemps. En fait, on se disait bon, en fait, est-ce que c'est les médias qui sont en train de monter ce truc parce qu'ils sont passés à côté des gilets jaunes. Du coup, là, ils ont peur de passer à côté de ce mouvement-là. Donc, ils font que d'en parler. Et en fait, ça faisait peur parce qu'on te dit ça allait presque être contre-productif parce que s'il y a pas assez de monde, ça va te décourager. Du coup, je me dis le 18, il y aura personne. Et en fait, oui, mais effectivement, comme disait Lomir, j'avais pas forcément pensé à ça sur les deux catégories de population qui étaient présents aux deux événements. C'est vrai que oui, pour l'organisation et tout. Après, pour la caisse de grève, il y en a une des syndicats, mais d'ailleurs qui existe depuis 2016, je crois, mais qui a rassemblé plus de 8,5 millions d'euros, si ça peut mettre un peu de baume au cœur. Et en fait, c'est super pratique parce qu'on peut voir à qui exactement ils ont donné de l'argent, y compris pour les gens qui sont en procès contre procès pour discrimination, mais aussi pour les grévistes. Et du coup, ils mettent tant donné sur plus de 8 millions qui ont été collectés depuis 2016 et sa création. Donc, mais pareil, en fait, faut être dans ces structures syndicales, tu vois. Faut vraiment, exactement. Faut être exactement dans ces. Enfin, moi non plus, je savais pas. Et c'est en cherchant, je me disais quand même, c'est pas possible. Il y a une caisse de grève pour les gens. Et je suis tombée là-dessus. Mais je pense que quand t'es syndiqué dans ta structure, tu vas l'avoir et tu vas en bénéficier. Mais à l'inverse, si t'as envie de t'engager chez toi, de ton côté, c'est plus compliqué. Et évidemment, on en parle tout le temps de dire, vu que la réforme des retraites, c'était perdu. C'est difficile de remobiliser les gens ensuite, et c'est normal. Et surtout qu'en fait, il n'y a aussi pas de gouvernement. Donc demander, qu'est-ce qu'on demande vraiment? En fait, les gens ont tellement ras-le-bol de tout que même avoir une demande qui soit plus précise et qui rassemble tout le monde, c'est peut-être plus compliqué qu'à d'autres périodes.
Il n'y a pas de gouvernement. Non, vas-y, Nabou.
Justement, par rapport aussi au fait qu'il y ait ces deux dates, moi, je trouvais ça dommage que la date du 18 soit posée ensuite avec ce cadre de c'est les syndicats, c'est les partis politiques, comme si se désolidarisait en fait de l'énervement général de la population, et au lieu de se mettre avec elle et de monter sur ces grands choses, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment plutôt que de faire corps tous ensemble, de prendre un peu de recul par rapport à ça et de se dire ah non mais nous on est on n'est pas avec eux, on fait un truc un peu plus structuré, un peu plus respectueux des règles, tout ça.
Et ouais, mais en même temps, je constate que ça marche mieux. C'est-à-dire que l'innovation des modes d'action du 10 septembre, le bloquons tout, n'a pas ramené les foules de la marche intersyndicale traditionnelle du 18.
Surtout que la méthode, elle était floue, tu vois. C'était bloquons tout, mais c'est on bloque quoi? Il y a des gens qui disaient non, faut pas payer en carte bleue. Il y a quelqu'un d'autre qui disait non, faut pas sortir de chez soi ou faut pas consommer du tout.
Les boucles Telegram la veille, c'était zinzin et on voyait vraiment. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est un fossé entre la respectabilité du 18 et le niveau d'énervement des gens sur les boucles qui préparant le 10. Où j'ai retrouvé le même esprit un peu de radicalité du dernier moment qu'il y a eu à la fin des Gilets jaunes, en fait, quand la police a commencé à raser les campements, et où là, il y a quand même eu. On a commencé, en tout cas chez moi, à avoir des conversations sur est-ce qu'on pète les rails de SNCF, est-ce qu'on fait une intervention sur la centrale nucléaire, parce que j'habite à côté d'une centrale nucléaire. Et là, il y avait cette espèce de multitude de tactiques sans queue ni tête un peu. Mais encore une fois, c'est un métier d'organiser des campagnes et du rapport de force, donc c'est pas surprenant. Mais en tout cas, ce que je constatais, c'est qu'il y avait vraiment du. On fait une opération caddie. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met plein de trucs dans un caddie, et puis après, on arrive à la caisse et on dit bah non, on peut pas payer. Puis après, t'as des gens qui disent bah non, moi je travaille chez Intermarché, c'est nous qui allons devoir tout remettre, ça fait chier, ça n'a aucun sens. Ok, bon bah qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on achète rien. Bon bah on prend le caddie, puis il est vide, et puis on. Enfin, tu vois, ça partait dans tous les sens. Et au-delà de ce que ça voulait dire d'immaturité, je pense, du mouvement, ça dit aussi beaucoup de. Les gens ne savent plus quoi faire tellement ils sont fatigués et sur les nerfs en fait.
Et qu'ils se font pas entendre aussi. Oui, ils ont l'impression que rien ne va marcher ou quoi, alors que je disais il n'y a pas forcément de, entre guillemets, cause commune, c'est faux parce qu'il y a la justice fiscale, si tu veux faire cette transition, Jean, mais sur la taxe Zucman, etc.
Exactement, c'était toute la transition que j'attendais, merci Latifa. On a un espèce de parfum de gauche au pouvoir, moi ça me fait mourir de rire, cette espèce d'ambiance là où toute la droite pète un plomb sur la taxe Zucman qui a réussi à faire son bonhomme de chemin dans l'espace médiatique, dans l'esprit des Français, dans les discussions, dans les bistrots, dans les dîners de famille. La taxe Zucman qui fait péter un plomb notamment au patronat, le MEDEF a décidé d'organiser le 13 octobre prochain, jour de rendez-vous de Nicolas Sarkozy au parquet, ça sera marrant, d'organiser un grand meeting patronal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de grand rassemblement patronal en France. Je crois que la dernière fois ça remonte aux années Jospin contre les 35 heures où il y avait eu des grands raouts. C'était déjà plus le CNPF, je crois, c'était déjà le MEDEF, je sais plus. Donc je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, cette taxe Zucman dont on parle de plus en plus?
Ah, mais c'est. Comment dire? Oui, effectivement, quand on voit. En fait, un bon signe qu'une mobilisation, quelque chose monte dans l'opinion, c'est quand les plus riches s'expriment ou se mobilisent, etc. Tu as parlé du MEDEF. J'ai découvert une association, je crois, des entreprises privées qui regroupent tous les. Vraiment les plus grosses entreprises de France. Ouais. Et ça fait des années qu'ils n'avaient pas fait une conférence de presse. Et là, ils en font une, le thème justice fiscale. Et Bernard Arnault qui parle aussi.
Qui pète un plomb, lui aussi.
Oui, ouais, qui est apparemment dans la mesure.
D'accord, ok.
Mais voilà, qui nous dit que. Qu'est-ce qu'il a dit sur Zucman?
Que Zucman était un militant d'extrême gauche qui veut détruire l'économie française.
Voilà. Et qu'il est communiste.
Communiste.
Oui, voilà. Alors, ouais.
La peur du rouge.
Le retour du
McCarthyisme. En fait, ce qu'on voit, et moi, ce qui me rend ouf, c'est sur les plateaux de télévision, on est là pour dire, on est en train de parler de 1800 foyers fiscaux, de, en gros, c'est comment ils vont payer. Et à quel moment on accorde aussi ces temps d'antenne pour dire, aujourd'hui, en France, il y a environ 10 millions de personnes seules qui vivent avec moins de 1 300 € par mois. Est-ce qu'on va faire des plateaux pour dire comment un tel va payer son loyer, comment une mère célibataire va remplir le caddie pour ses enfants, comment cet ouvrier à la retraite va... Ça n'existe pas, nulle part. Et là, en fait, on est en train de nous occuper, de nous polluer l'espace médiatique avec 1800 personnes. Pourquoi? Évidemment, parce qu'elles touchent les plus riches. Ces plus riches-là ont des relais. Et puis c'est pour ça qu'on en parle davantage. Mais c'est presque indécent. Surtout, l'inflation, qu'est-ce qu'elle a fait au foyer? C'est incroyable. On a des multinationales, des entreprises qui s'en sont mis plein les poches sans jamais être taxées.
Avec notre argent, hein,
ouais. Enfin, c'est quand même c'est la moindre des choses qu'il y ait une taxe sur les ultra-riches quand on voit que, oui, il n'y a pas de ruissellement.
Il semblerait, selon les rumeurs, il semblerait que le Cornu souhaite effectivement faire contribuer les ultra-riches dans le budget. Probablement pas la taxe Zucman, probablement pas le retour du ISF, peut-être un mix des deux. Apparemment, c'est c'est en cours de réflexion.
Oui, parce que là, ils voient très bien qu'il faut qu'il y ait quelque chose et il faut envoyer un signal.
Il y a un risque, c'est qu'ils ne satisfassent personne avec ça.
Voilà.
C'est que les riches soient pas contents parce qu'ils sont plus taxés et la gauche soit pas contente du tout parce que c'est pas la taxe Zuckman. J'en sais rien, on verra bien. Non, je sais pas.
Moi, ce que je trouve très intéressant que tu as dit, c'est le relais. Alors ça, c'est vraiment un truc qui me bute. C'est les gens, alors notamment chez moi, quand on dit riche ou patron, les gens, ils pensent à leur tonton qui a une PME ou une TPE qui rentre 5000 balles par mois, qui travaille 80 heures par semaine. Mais on parle pas, mais tant mieux pour lui. Mais tant mieux pour lui, vous avez une piscine creusée, vous avez acheté un SUV, vous partez en vacances. Mais tant mieux pour vous, on ne parle pas de vous. On ne parle pas de vous, vous ne ferez jamais partie de ce club exclusif. Jamais, vous avez plus de chances de devenir SDF que de devenir milliardaire. Donc en fait, il faut arrêter de croire que vous êtes dans la même équipe. Ces gens, ils vous rouleraient.
C'est très puissant, ça, comme
non, mais c'est, et ça me rend zinzin parce que c'est comme cette espèce d'identification sur patron. En fait, non, quand tu es auto-entrepreneur parce que tu fais les ongles à domicile, tu n'es pas patron comme Bernard Arnault, en fait. Donc, vous n'avez pas les mêmes intérêts, vous n'avez pas les mêmes conditions matérielles de vie, donc arrêtez de les défendre. Vraiment, ça me bute de croire que tu penses que tu as plus en commun avec Bernard Arnault que avec Ahmed du bout de la rue, qui pourtant travaille sur la même chaîne chez VP ou chez Amazon que toi, ou que ton voisin qui touche 1004 alors que toi, tu touches 2003. Ouais, et vous êtes dans la même équipe.
Moi, je suis très curieux de voir les micro-trottoirs au moment du meeting du MEDEF le 13 octobre. Tu verras que ça va être des petits artisans, des petits commerçants.
Mais c'est ça, tu as envie de dire, s'ils pouvaient te rouler dessus pour aller acheter un quatrième yacht, ils le feraient. Mais vraiment, mais moi, ils ne sont pas les steaks de toi.
Ça, c'est dû au fait aussi qu'on n'a pas laissé aussi l'espace médiatique pour mieux expliquer la taxe Zuckman, pardon. Et que du coup, tout de suite, on a mis taxe Zuckman est égal, voilà, on va taxer tous les riches et... Et en fait, on simplifie tout ça. Et donc, forcément, il y a des gens qui se disent oh, ben, ça va être moi, ça va être moi. Et il n'y a pas eu cette pédagogie-là. Et je pense que, quand elle a été là, elle a été plus faible que les voix dissidentes.
Ouais. Non, mais c'est vrai, autre pédagogie qu'il n'y a pas eu, c'est quand Bernard Arnault dit on va, l'économie, etc., va être à terre. Alors, c'est pareil, il y a plein de gens aussi qui. Ça revient beaucoup, même dans des discussions privées, des choses comme ça. Oui, mais c'est eux qui créent la richesse. Oui, mais voilà. En fait, c'est les entreprises qui créent la richesse et créent de l'emploi. Donc, eux, s'ils n'ont pas d'argent, nous aussi, on n'en a pas. Alors, non, parce que la contribution aussi par l'impôt, qu'est-ce que ça permet de créer? Des services publics de qualité qui créent aussi de la richesse. Et leur richesse individuelle n'existe pas sans notre richesse commune à nous. Et notre richesse commune, elle est où? Elle est là-dedans. En fait, elle est dans des hôpitaux de qualité, elle est dans les écoles de qualité. Et en fait, effectivement, ça passe par de l'impôt. Et le consentement à l'impôt, par contre, là où je suis d'accord, c'est que la question du consentement à l'impôt, c'est aussi le fait d'avoir ces services publics-là de qualité. Là, on est à l'Association des maires ruraux de France. Donc, l'accès aux services publics est aussi une grande question. Et quand les gens sentent que, bon, bah, en vrai... apparemment on paye des impôts mais on n'a pas de service public, ça pose un problème. Mais c'est aussi ça en fait, cet argument qui revient tout le temps, non mais il crée de la richesse, non, en fait il y a une richesse qui existe, elle est commune et on y contribue toutes et tous et on devrait y contribuer toutes et tous à part égale en fait et selon notre richesse et nos revenus.
Je ne sais pas si vous avez remarqué mais pendant ce temps-là on n'a toujours pas de gouvernement. Sébastien Lecornu fait des consultations, Sébastien Lecornu fait des déplacements, Sébastien Lecornu annonce des mesures. Sébastien Lecornu n'a pas encore composé de gouvernement. Il se dit même qu'on n'aura peut-être pas de gouvernement composé à la reprise du Parlement le 2 octobre. Ça attendra peut-être encore une semaine ou deux. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et pourquoi j'ai l'impression que tout le monde s'en fout? Pourquoi j'ai l'impression que ça... Non mais c'est intéressant.
Qui s'en fout ici?
Qui s'en fout? On n'a pas de gouvernement, ça intéresse personne. Parce que rappelez-vous Michel Barnier. Non mais voilà. Rappelez-vous Michel Barnier. Tout le monde était dans l'expectative. Qui va devenir Premier ministre? Quel signal?
C'est parce qu'on pensait qu'on avait une chance à gauche encore.
Exactement. Oui.
Maintenant on sait.
Moi j'arrête. C'est foutu quoi. Mais je pense. Enfin c'est juste qu'on est.
Nous avons eu à l'usure.
Lassitude.
Oui en fait. Mais de toute façon on va le redire encore que démocratiquement ça pose un problème. C'est quand même incroyable qu'on ait quand même le NFP qui arrive en tête et là on se retrouve avec un Macron bis,
ouais.
C'est ça,
oui,
un Macron bis, etc. Donc en fait qu'ils fassent leur gouvernement, qu'ils le fassent pas, de toute façon ils font les trucs de leur côté
comme ils en ont envie.
En fait, allez, nommer un gouvernement, au moins ça fait quelqu'un sur lequel les organisations vont pouvoir faire pression à la
pour
limite
coup,
c'est ça
mais... pour le coup, qui nomme un macronbisme, c'est peu importe le profil du bonhomme, ce qui compte, c'est ce qu'il va faire et ce qu'il va présenter comme budget. Pour moi, l'exercice, ça va être la présentation de sa politique générale, ça va être la présentation de sa première mouture du budget, les négociations sur les amendements en commission des finances. C'est là qu'on verra de quoi il est fait, le Sébastien Lecornu. C'est pas dans le casting de son gouvernement. Mais tu je vous avoue, je m'en fous un peu aussi.
Mais je trouve ça intéressant parce que peut-être que c'est... Parce que quand je t'écoute, je me dis oui, t'as raison. Tu vois, je m'étais même pas dit ça parce qu'en fait, j'avoue, j'en peux plus. Et du coup, je me dis, à force de maltraiter ce qu'est la fonction gouvernementale, ce que c'est censé d'être gérer les affaires courantes d'un pays, eh ben, on en arrive à se prendre la tête sur un casting. Alors qu'en effet, le plus important, c'est le budget. Mais tu vois, moi-même, pendant que tu parlais, je me disais, il a raison, oui, c'est vrai, finalement, on s'en fout un peu des ministres. Mais c'est devenu ça, en fait, la politique
Oui, c'est vrai,
le people politics à outrance, tu vois.
On s'en fout du casting. Ce qui compte, c'est les personnes qui sortent du bureau de Lecornu et qui témoignent devant les micros tendus des chaînes de télé sur ce qu'il s'est dit dans le bureau, où en sont les négociations, où est-ce que ça avance, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours au point mort. Je ne sens pas du tout le PS prêt à soutenir Lecornu. Je sais que le PS fait aussi monter les enchères de son côté, il aurait tort de se priver, mais sans victoire très symbolique sur l'ISF, sur la taxe Zucman, sur le retour de la retraite à 62 ans, j'ai du mal à imaginer que le PS soutienne. Et quand bien même le PS soutiendrait, je ne suis même pas sûr que ça passe.
Moi, je pense que, on a l'impression qu'il n'a pas l'air d'être très pressé, mais en fait, je pense que juste il est dans une impasse totale, parce qu'il ne faut pas qu'il réitère les mêmes erreurs que Barnier ou Bayrou, et donc il faut qu'il réussisse à convaincre tout le monde et en même temps personne, quoi. Enfin, il pourra pas consulter tout. Oui, il pourra pas. Il réussira jamais à consulter tout le monde. Et donc, il est juste. Je pense que il est tout aussi embarrassé que nous, dans le sens où s'il essaye de faire abstraction du coup du PS, ça va forcément mener à nouveau à une nouvelle censure et rebelote. On est au même point en fait. Donc c'est un cercle vicieux.
Mais moi je pense que c'est impossible. Je commence vraiment à penser que la dissolution c'est le truc qui a le plus de chances d'arriver. D'une manière ou d'une autre, je pense que Macron va peut-être se retrouver contraint et forcé.
Mais ça m'interrogerait de parler, tu vois, par exemple, aux maires qui sont ici, de dire, mais en fait, vous, ça vous fait quoi ? Notamment pour les gens qui travaillent en mairie, la perspective d'avoir deux élections à organiser en mars, la menace de... Ouais, voilà, non, mais on a des gens... Et tu vois, typiquement, une des réactions qui avait été pour la dissolution juste après les européennes, c'est que les gens qui travaillent en mairie, ils étaient là, mais on est épuisés, en fait. On n'en peut plus. C'est une organisation monstrueuse d'organiser des élections pour les gens qui travaillent en mairie, qui sont déjà sous-staffés et sous-financés. Et je trouve que encore une fois, le mépris de la réalité est tel que là, tous les jours, tu vois, on arrive à faire des blagues. Dissolution, pas dissolution, on va voir. Mais en fait, il y a des gens dont c'est le quotidien, dont c'est la vie. Et je trouve ce mépris pour les conséquences que des décisions prises au sommet vont avoir pour nous. Et les maires, notamment, parce qu'ils sont eux-mêmes en pleine campagne quand même de réélection. Enfin, il y a quand même 36 000 listes de gens qui sont en train de se constituer, d'écrire un programme, de créer des équipes. Donc ça veut dire quoi ? En plein milieu, on va dire non, en fait, alors attendez, c'est déjà suffisamment compliqué d'intéresser les gens à la politique. Donc en fait, non, on allait vous parler de ce qui va se passer au niveau local, mais en fait, attendez, là, on revient sur l'Assemblée nationale, puis alors après, on va revenir... Enfin, c'est pas sérieux, en fait.
C'est vrai que les maires et les maires qui sont ici, les maires ruraux en particulier, sont concentrés également sur les annonces budgétaires, quel que soit le gouvernement, pour savoir s'ils auront une DGF qui ressemble à quelque chose l'année prochaine ou s'ils vont devoir annoncer des très mauvaises nouvelles à leurs administrés à quelques mois des élections. C'est très concret, c'est effectivement très concret. Autre sujet qu'on voulait aborder, c'est la manifestation de la FNSEA, syndicat agricole contre les droits de douane et l'accord UE-Mercosur. Journée de mobilisation intéressante. Loumire, je voulais t'entendre dessus parce qu'on a vu que les écolos ont appelé à manifester avec la FNSEA.
Mais enfin,
qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est d'accord. Enfin, je veux dire, quand tu prends les revendications, les inquiétudes premières des agriculteurs, c'est le prix. Eh oui, normal. L'adaptation au changement climatique et après, mais à 10%, l'adaptation aux normes. Donc, ce qui se passe, c'est que, comme souvent, les gros instrumentalisent les petits et que les capitalistes sont les meilleurs sur Terre pour trouver pour identifier le problème et trouver une mauvaise solution. Et je pense que le mouvement des agriculteurs de l'année dernière montre exactement ça, qui est que en fait, et l'incapacité de la gauche et notamment des écologistes à comprendre le problème, qui est quand même, ça fait 50 ans, on leur a dit il faut produire. Maintenant, le sujet, c'est pas de s'occuper de la nature, c'est pas de prendre soin de la biodiversité, on s'en fout, il faut produire. Et là, on se dit tous collectivement, attends, en fait, ça marche pas, ça. On sait pas comment on va bouffer en 2040, on sait pas sur quelle planète on va continuer à vivre et ce qu'on va laisser à nos enfants. Et là, on leur dit, non, là, attendez, demi-tour tout, on va faire exactement pas ça. Et les gens, moi, je ne sais même pas comment les agris aujourd'hui tiennent. Enfin, c'est héroïque d'arriver à se lever tous les jours sans vacances pour 350 balles par mois, avec quand même des prix qui changent tous les jours. C'est le yo-yo. Et je crois que collectivement, il faut qu'on arrive à identifier que une des causes profondes de cette situation, c'est le libre-échange. Et c'est le fait que peut rentrer sur des marchés des produits similaires à prix cassé sans les mêmes normes, le fait que ce soit des dirigeants en costard qui aient signé des accords à Bruxelles, à New York, alors que ça ne tient pas sur le terrain. Ça ne tient pas. Et je trouve ça vraiment bien qu'on change des postures, alors même qu'il y a eu beaucoup de violence, notamment des agriculteurs sur les écologistes récemment. On pourra en reparler. Et donc, ce n'est pas forcément évident de créer des solidarités et des coalitions. Mais je trouve ça très bien qu'on ait réussi à le faire parce qu'en fait, on a le même problème. On a identifié le même responsable. Et ça, c'est la continuation du libre-échange avec des accords type le Mercosur.
En tout cas, ça nous rappelle que la ruralité est plurielle, que les agriculteurs aussi sont pluriels, sont différents les uns des autres, que les alignements partisans des organisations syndicales sont plus compliqués à lire que ce qu'on pourrait imaginer. Qu'est-ce qu'il en est d'ailleurs de la Confédération paysanne et de la coordination rurale dans cette journée de mobilisation ?
La Conf a appelé à se joindre et la CR, dans mon souvenir, a dit qu'ils allaient demander une rencontre avec le Cornu pour faire le point. C'est les infos que j'ai.
D'accord.
Que tout le monde peut avoir parce que je les ai trouvés dans les journaux. Hein,
donc. Oui. Est-ce que l'idée, c'est de casser la logique d'alignement politique des syndicats sur les partis, comme on a pu l'observer entre la coordination rurale et le RN ?
Je pense que, comme toujours, quand on parle des vrais problèmes, c'est-à-dire des problèmes économiques et de vision économique, le RN est emmerdé. Parce qu'en fait, le RN, dès qu'il s'agit de parler de taxes, des vrais responsables de nos problèmes, c'est-à-dire un monde complètement déséquilibré où un tout petit nombre de gens ont un pouvoir disproportionné sur tous les autres, ils n'arrivent pas à identifier ça. Et c'est là, et je veux dire, on le voit bien, c'est la grande alliance entre l'extrême droite et l'extrême argent. Elle est constante et la seule manière de ne pas la voir, c'est de continuer à trouver d'autres responsables de nos problèmes. Les migrants, les trans, les noirs, les arabes, les écolos, les Khmers verts. En fait, ce qui, moi, je trouve assez fascinant, toujours quand on fait du militantisme, c'est qu'au final, on se rend bien compte que les gens qui sont impactés par ces décisions trouvent des accords et des coalitions et des solidarités. Parce qu'en fait, on n'est pas débile et on est capable, quand on a une conversation, d'identifier que la plupart du temps, le responsable de nos problèmes, c'est le capitalisme fou et ses alliés politiques.
Vous êtes d'accord ?
Oui. Moi, je pense que même on va avoir d'autres types de solidarité intermouvement comme ça qui vont se multiplier dans l'avenir parce qu'il va y avoir d'autres accords de libre-échange qui vont être signés entre l'UE.
Il y a des négociations qui ont lieu en ce moment.
Et l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, la Malaisie. Donc ça va continuer en fait. Et donc il va y avoir tout le temps cette question aussi des conséquences que ça va avoir concrètement au niveau de la concurrence déloyale, de l'impact environnemental que tout ça peut avoir et aussi de juste les normes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à manger des aliments ultra transformés, ultra remplis d'OGM parce que ils n'auront pas réussi à négocier suffisamment le respect de nos normes UE alors qu'ils l'imposent en contrepartie à nos agriculteurs européens. Voilà,
C'est lunaire. C'est lunaire, en fait.
Non, c'est insensé de demander ça aux gens.
On va voir en tout cas à l'avenir si on continue à avoir des mobilisations comme ça contre le libre-échange dans lequel la FNSEA rentre, même si tu as le risque que la FNSEA ait un double discours entre ce qu'ils disent.
Voilà. Moi, ça me fait assez sourire de voir le président de la FNSEA vent debout contre le Mercosur, alors que il y a quelques mois, pendant le mouvement des agriculteurs, pendant la loi du plomb, quand on a essayé de poser le sujet de l'emprise des multinationales sur l'agriculture mondiale, notamment l'agriculture française, c'est comme riche et patron agriculteur. Ça veut rien dire en fait, parce que entre les grands exploitants céréaliers, les éleveurs, les gens qui sont en permaculture, tu vois, qui sont des néo, en fait, il y a plein de types d'agriculture. Et comme souvent, les plus gros et les plus riches captent la parole, capturent le débat public, et on a du mal à entendre les autres.
On voulait parler de l'extrême droite aussi avec le discours de Donald Trump à la tribune des Nations Unies. Il a lâché la rampe, hein. c'est, je crois qu'on peut le dire, là, ça y est. L'a-t-il déjà tenu un jour ? C'est vrai, c'est une bonne question, Loumir. Assez impressionnant, et notamment la distinction qu'on a entre l'extrême droite américaine et l'extrême droite française sur le style, notamment parce que l'extrême droite française continue à jouer la stratégie de la cravate, comme on l'a appelé, la stratégie de la dédiabolisation, la respectabilité, le fait d'aller draguer les milieux professionnels, les milieux d'affaires, le fait de bien se comporter dans les institutions, alors qu'aux États-Unis, on a l'impression qu'à l'inverse, ils ont lâché la rampe et ils ont lâché les freins et ça marche très bien pour eux. Qu'est-ce que vous en pensez, Latifa ?
Est-ce que vraiment, effectivement, pour la stratégie de la cravate, la dédiabolisation et tout, mais enfin, c'est bien passé presque d'un point de vue marketing. Mais en soi, les gens qui entourent Marine Le Pen, qui entourent le Rassemblement National, des groupuscules ultra violents, jusque le milieu des affaires, etc., ça reste les mêmes personnes et c'est la même continuité parce que tous ces gens appartiennent à un même cercle social, se voient, échangent ensemble, etc. Donc là-dessus, c'est pas forcément, c'est purement stratégique. Et après, c'est vrai qu'on avait pourtant beaucoup parlé pour Zemmour de parallèle avec Trump, etc. Est-ce qu'il faisait pas la même chose, ou enfin, quand on voit le fait d'appeler pas mal d'influenceurs d'extrême droite, de faire appel à eux, de diffuser tout un tas d'informations complètement, complètement fausses, de détourner des récits aussi qui sont progressistes. Là, on le voit avec, les collectifs fémonationalistes qui vont s'emparer d'affaires de violences sexistes et sexuelles uniquement quand elles concernent des personnes qui sont sous OQTF, en tout cas qui en sont coupables. Et donc, en fait, on voit de plus en plus, j'ai l'impression, les mêmes ressorts qu'on peut voir outre-Atlantique, etc. Donc, c'est vrai qu'on a ce truc où Marine Le Pen est un peu plus... est-ce qu'elle présente mieux que Donald Trump ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, qu'elle peut rassurer davantage les gens. Mais est-ce que, en fait, finalement, ça tient qu'à ça dans l'époque dans laquelle on est ? Est-ce que ça va suffire aux gens ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours ce petit recul sur cette stratégie sur dédiabolisation. Et en fait, il nous appartient aussi de davantage communiquer autour de ça pour les gens, que l'extrême droite n'a pas changé, en fait.
Loumir, toi, tu as passé 7 mois aux États-Unis. Mm-hmm. Tu as vu de près les dingueries de Donald Trump ?
Ouais, je rentre de 7 mois dans le Kentucky et en Virginie occidentale, qui sont deux des États les plus acquis au trumpisme. Mon analyse, alors elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est que en fait, les États-Unis sont d'une telle violence quotidienne. C'est inimaginable pour nous qui vivons dans un État où il y a des services publics, où il y a... bien sûr, il n'est pas parfait, il est parfois défaillant. Enfin, je veux dire, on est en pleine ruralité, a fortiori, il y a des services publics qui ferment, et c'est toujours d'ailleurs corrélé à une augmentation du vote d'extrême droite. On le sait, quand un service public ferme, la population se met à voter plus pour l'extrême droite. Mais en fait, ça n'est sans aucune commune mesure aux États-Unis, par exemple. Tu te fais renverser, donc mettons, tu traverses la route, tu te fais renverser par une voiture, tu n'appelles pas une ambulance, tu appelles un Uber parce que ça coûte trop cher, une ambulance. Enfin, et tout ça, c'est ça, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui occupent 1, 2, 3 emplois. Et donc, je crois assez sincèrement que dans un système où le capitalisme est tellement fou, où il est tellement destructeur, où les gens mangent de la merde, boivent... Enfin, je veux dire, dans les endroits où j'étais, il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas de système d'égout. En 2025, des égouts à ciel ouvert, il y a un tuyau et hop, ça sort. Et donc, je pense que pour justifier un tel niveau de violence, il faut un niveau de violence équivalent envers d'autres populations. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a autant de violence en ce moment de la police de l'immigration qui est en train de littéralement de terroriser des millions de personnes avec ou sans papier d'ailleurs, des gens qui ont fait leur vie aux États-Unis, qui sont là depuis des dizaines d'années, qui est en train de terroriser la communauté LGBT, qui est en train de terroriser les antifas, à savoir ce que ça veut dire, on ne sait pas. Et je pense sincèrement que ce niveau de violence capitaliste ne tient pas si en face, il n'y a pas le même niveau de violence. Et c'est ça qui explique, à mon avis, le niveau de folie, parce que, enfin, je veux dire, quand tu regardes ce discours à l'ONU, tu t'es dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est un sketch. Ce mec ne dirige pas la superpuissance mondiale. Il parle... tu sais, c'est Joanne Chapoutot qui dit ça. D'autre manière, l'extrême droite, le premier truc qu'elle fait, c'est maltraiter le langage.
Ouais,
là,
ouais,
c'est
ouais.
Ça. Enfin, non, mais ça
il
s'explique.
Il parle des escalators, il parle du prompteur, il parle du building. Enfin,
il dit bon, alors le meilleur pays au monde, ça, on a compris, que tous les autres pays sont nuls. Que,
ouais, il le dit aux délégations, c'est ça qui est dingue.
Et là où ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que le masque s'en va pour la première fois, parce que les Américains ont l'habitude d'entendre ça. Je veux dire, c'est le clown depuis bientôt 10 ans. Mais là, sur la scène internationale, de voir tous les autres chefs d'État, je pense que ça a été quand même un grand choc pour beaucoup.
Mais je pense que, in fine, même s'il raconte toutes ces conneries, que ce soit sur la scène internationale ou dans son bureau ovale, quand il est posé avec X président, ou, enfin, en fait, à la fin, ce que les gens retiennent de son discours lunaire, c'est qu'il trouve toujours un bouc émissaire pour rejeter la faute de tous les problèmes. Donc que ce soit ah oui mais non mais c'est à cause de Biden, ça va être à cause des immigrés, ça va être, et donc les gens ils retiennent seulement ça dans tout ce discours flou et qui n'a aucun sens, et donc ça les rassure parce qu'ils se disent ah ben voilà, c'est bon, j'ai trouvé la réponse à mes questionnements, pourquoi j'ai pas accès à une santé, enfin enfin, comment dire, enfin, vraiment un niveau de vie décent, c'est parce que c'est la faute d'un tel. Parce que Trump le dit. Et donc, je pense qu'il y a ça. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais sur les influenceurs d'extrême droite en France, ils sont assez ressemblants. Alors, on n'est pas au stade d'avoir un Charlie Kirk en France. J'espère qu'on n'en arrivera jamais à là. Mais on est sur cette dynamique-là, parce que le nombre d'influenceurs d'extrême droite qui ont rendu hommage à Charlie Kirk, parce qu'ils sont dans la même idéologie, dans la même pensée, en fait.
Ce qui se nourrit, c'est qu'ils sont très admiratifs de Charlie Kirk.
Exactement, parce qu'ils se disent, on aimerait atteindre ce niveau-là, parce que pour eux, c'est aussi la manière aussi de faire passer leurs idées. Et donc, ces influenceurs d'extrême droite, on pense qu'ils sont plutôt proches d'un Zemmour que d'une Marine Le Pen, parce qu'elle essaye de ne pas trop s'afficher avec eux. Mais au fond, ils sont dans ses rangs, ils sont parmi ses équipes, et il ne faut pas qu'on l'oublie, quoi.
T'as vu l'IFP, donc l'Institut de la formation politique, l'espèce d'école de l'extrême droite de Marion Maréchal à Lyon, a nommé sa prochaine promo la promo de Charlie Kirk.
Ah, super.
Non, je ne savais pas. Eh bah, écoute, c'est bon à savoir, mais il y a effectivement un nourrissement de l'extrême droite européenne et notamment française de ce qui se passe aux États-Unis. Disons qu'il y a une extrême droite d'atmosphère aux States qui bénéficie à Marine Le Pen, même si en France on a la question de l'islam qui est spécifique à notre extrême droite à nous, qui en fait des caisses un peu, c'est un peu moins le cas aux États-Unis pour des raisons différentes. Mais je reste circonspect, je ne suis pas convaincu que ça puisse encore permettre une victoire de Marine Le Pen à une élection présidentielle. Je pense que ça dépend encore de trop d'éléments. Le RN reste le premier parti de France, ils sont à plus de 30% aux européennes, etc. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais de là à remporter une élection présidentielle, je m'interroge sur la capacité du Front républicain à se maintenir. Et le Front républicain, je rappelle que ce n'est pas un truc qui est fait par les partis, c'est fait par les électeurs qui décident de se lever le matin pour aller voter pour quelqu'un avec qui ils ne sont pas d'accord pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. À mon avis, c'est là-dessus que beaucoup va se jouer.
Oui, c'est sûr. Et bah, moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je pense sincèrement que le dernier barrage, les gens qui peuvent faire basculer la France dans un régime potentiellement autoritaire, parce que je crois qu'on... c'est quand même toujours le projet de Marine Le Pen, c'est les classes populaires et les petites classes moyennes rurales.
Ouais. Eh ben c'est joyeux tout ça, dis donc. le livre dont tu parles, ma chère Loumire, c'est « Ces gens-là ». aux éditions Payot, plongée dans cette France qui pourrait tout faire basculer. Un livre qui est sorti il y a deux jours. N'hésitez pas à aller l'acheter et lisez-le surtout. Chers amis, vous restez avec nous. On va vous mettre une petite vidéo sur le financement de votre émission préférée Backseat. Et juste après, on se retrouve avec notre invité politique. Cette semaine, nous recevons Hugo Biollet, plus jeune maire de France, élu à 18 ans en 2020 dans la ville de Vinzieux. Il viendra nous parler de tout ça. Et à tout à l'heure, les copains. Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Backseat, dans cette deuxième partie d'émission, émission spéciale en direct du congrès de l'Association des maires ruraux de France, émission ruralité. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité politique ce soir, il s'agit d'Hugo Biollet. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous de m'avoir invité surtout.
Mais je t'en prie, mon cher Hugo, tu es le plus jeune maire de France. Tu as été élu à 18 ans en 2020 à Vinzieux, petite commune de 500 habitants du nord de l'Ardèche. Tu fais partie depuis mars dernier du Printemps des maires, un collectif d'élus locaux destiné à favoriser l'engagement politique aux élections municipales. Tu nous en parleras et tu sièges également au conseil d'administration d'INSEET, qu'on a reçu dans la première partie de l'émission. Raconte-nous un petit peu ton parcours, Hugo. Comment tu es devenu maire à l'âge seulement de 18 ans ?
Alors, mon parcours, il est en fait, il est un peu atypique parce qu'il part de celui d'un gamin qui est très, très timide, vraiment très, très, très timide quand je suis au collège, que j'arrive aux années lycée, etc. Et puis, qui se dit qu'il a envie de changer, puis qui arrive petit à petit à s'ouvrir aux autres et au monde. Et puis, quand j'arrive aux alentours de mes 18 ans, il se trouve que j'habite toujours dans un village qui est le village dans lequel je suis né quasiment, qui s'appelle Vinzieux. Moi, quand je me balade dans ce village, j'aime bien dire, je l'ai vu grandir en même temps que moi. Et j'y vois plein de choses. Je me dis, on pourrait faire plein de projets. Ça fait, il manque de la vie, j'ai envie d'y faire revenir de la vie, etc. Et puis, Et puis il y a quelqu'un, on me dit, mais pourquoi est-ce que tu mets la responsabilité de ça aux autres, et pourquoi tu le ferais pas toi, et pourquoi tu t'engagerais pas? Il y a une personne qui m'a dit ça, j'y réfléchis.
Mais attends, tu connaissais déjà l'action municipale, le conseil municipal et tout, ça te parlait? Tu y étais déjà allé ou...
Alors, oui et non.
Ok.
Oui, parce que, en fait, j'avais eu l'occasion de regarder comment ça marchait dans les communes autour et ça m'intéressait. Moi, je me suis toujours intéressé à la politique depuis gamin, mais d'accord. Je ne me suis jamais dit que c'était pour moi.
Ouais, ok.
Tu
n'as jamais été élu délégué, pardon?
J'ai jamais été élu délégué, effectivement. Okay.
C'est une info. Parce
que mais quand... ça t'intéressait à la politique? Tu es à la télé, etc. Tu voyais passer les trucs, non?
Ouais, je voyais passer les trucs à la télé. Ouais, je me rappelle les présidentielles, etc. On regardait les grands trucs à la télé. Mais en fait, il y avait la politique à la télé et puis ma vie. Ouais, et puis il n'y avait rien entre les deux. Ouais, ouais. Et puis un jour, j'ai fait un stage dans une mairie et je me suis retrouvé auprès d'un directeur de cabinet. Et là, j'étais encore très, très, très timide à l'époque. Et je me suis retrouvé pendant 2 semaines à aller sur le terrain, à aller voir le problème du bas de l'immeuble avec un échafaudage qui est mal placé et comment est-ce qu'on va le régler, etc. Et cette même personne, un jour, il a fallu régler un problème, je crois que c'était avec un cirque qui venait s'implanter dans la ville. Et il y avait un petit problème à gérer. Et il me donne le téléphone, il me dit, tiens, tu me dis que t'es le collaborateur de cabinet parce que stagiaire, ça marche pas. Il me donne il fait le numéro. Il décroche le téléphone, il sort de la pièce et démerde-toi, quoi. Et là, je me suis dit, ah bah finalement, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et ça m'a donné une confiance. Et on fait quand même. Et finalement, on se débrouille et on y arrive. Et ça m'a donné soif d'apprendre, en fait, et de faire des nouvelles choses.
Ok. T'es un vrai ovni parmi les maires de France. Il n'y en a que 4% d'entre eux qui ont moins de 40 ans. Est-ce que tu sais d'où ça vient, cette difficulté qu'ont les jeunes à s'engager politiquement au niveau local?
Il y en a tout plein des difficultés. Et en fait, je ne sais pas par quel biais on prend le truc, mais il y a un premier biais de difficulté qui est celui de donner envie. Et c'est peut-être le plus important et le plus grave aujourd'hui, c'est qu'on a une sorte de crise de confiance où moi j'entends plein de gens qui me disent les jeunes ne s'engagent plus, ils n'en veulent plus, etc. Et je pense que c'est faux parce que je croise plein de jeunes qui s'engagent, on est de la génération climat qui sort dans les rues, on n'a jamais été aussi connecté aux problèmes de la France et du monde à travers plein de biais. Mais par contre, les gens ne veulent plus s'engager démocratiquement parce qu'ils n'y voient pas comme un espace de solution et au contraire, moi, je pense que c'est à nous de construire ces espaces-là de solutions et d'y aller. Et je ne sais pas pourquoi je suis allé là-dedans, mais je suis partie des quelques-uns qui ont envie de redorer un petit peu l'image et de dire que la politique, c'est important et qu'on a besoin de gens dans les associations et qu'on a aussi besoin de gens dans les mairies ou dans les institutions.
Alors, il y a certainement le complexe d'illégitimité, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi que les jeunes peuvent percevoir ça comme un lieu d'emmerde. En 2020, environ 500 maires démissionnent chaque année. 44% des maires déclarent avoir déjà pensé à démissionner. Et toi, c'est le cas ou pas?
Alors, c'est pas le cas. Alors, les emmerdes, on en a des emmerdes. Et on a notre lot, on entend toutes les trucs, on est à portée de baffe, etc. Mais par contre, il y a tellement de trucs passionnants. Moi, depuis 2020, mais le nombre de personnes que j'ai rencontrées, c'est impressionnant. Et puis en fait, je me retrouve dans la même journée à faire de l'urbanisme, à traiter sur l'avenir du village, sur la question de la gestion des bâtiments publics, de l'électricité, etc. Et en même temps, à régler aussi la problématique d'un habitant qui vient, qui n'arrive pas à trouver quelqu'un pour garder ses enfants le lendemain, etc. Et puis du coup, on essaie de trouver des solutions ensemble. C'est hyper concret, en fait, dans une mairie.
Latifa.
Non, juste comment la campagne que tu as menée, comment tu as convaincu les gens de voter pour toi? Et après, quelle est la moyenne d'âge un peu dans ton village, en fait?
Alors, la campagne, en fait, je l'ai faite de manière relativement longue parce que je savais que, déjà, rien qu'avec ma tête et mon âge, je partais avec un petit handicap, entre guillemets. En tout cas, j'avais besoin de montrer que j'étais légitime à y aller. Et donc, en fait, on est parti en équipe, parce que je veux dire et redire que, en fait, moi, on me voit même beaucoup plus que les autres maires, en fait. Mais en fait, la commune, si on n'est pas nous 11 en l'occurrence, elle ne fonctionne pas. Et moi, je ne fais pas les trucs tout seul. Donc, on est parti en équipe, on s'est présenté. Et puis moi, simplement, on a bossé. Et puis, j'ai montré pendant plusieurs mois que j'étais légitime. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai fait 2 réunions publiques pendant ma campagne. Une première au mois de novembre. Et là, je parle. Mon objectif, c'était de montrer que j'étais légitime. Donc, je fais 45 minutes sans notes pour présenter le programme qu'on a construit ensemble avec toute l'équipe. Et puis, à la fin, je me retrouve avec que des questions sur mon âge. Mais comment tu vas faire avec ton âge, avec tes études, etc., etc. Des trucs qui viennent re-questionner la légitimité d'un jeune à se présenter, à avoir des idées et à bosser. Et on a travaillé ça, et trois mois plus tard, on a refait une deuxième réunion publique. Même chose, et là, plus aucune question sur mon âge. C'est-à-dire que le temps a permis aussi de faire imprimer le fait qu'on avait bossé, qu'on avait envie d'y aller, qu'on était une équipe et que ça peut fonctionner.
Namo ?
Justement, il y a des sondages qui montrent que les jeunes ne sont pas si désintéressés que ça par la politique, mais c'est juste qu'il y a plus de défiance vis-à-vis des élus, de leurs représentants politiques. Déjà, est-ce que tu penses que justement la figure du maire, qui est une figure de proximité, est déjà une figure qui peut permettre de réconcilier ce problème-là? Et à ton avis, on peut redonner cette envie aux jeunes de s'impliquer dans la politique à l'échelle locale?
Pourquoi on s'implique? Parce qu'on veut que ça change. Et en fait, le vrai problème, c'est qu'on a plein de capteurs aujourd'hui à l'échelle nationale qui montrent que, en fait, il se passe plein de trucs. Il y a des élections. Et puis, il y a des moments, vous en avez déjà d'ailleurs très bien parlé. Pourquoi est-ce qu'il y a eu aussi peu de réaction là sur les derniers mouvements ministériels? C'est parce que, enfin, en gros, il y a une sorte de lassitude. On se dit mais qu'est-ce qui va arriver, où est-ce qu'on en est, etc. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour notre démocratie, parce que aujourd'hui on est dans un moment du monde, et je pourrais développer, où on a besoin d'un changement assez brutal. Et là-dessus, j'ai l'impression que dans les communes, on arrive encore à faire différemment et qu'on devrait s'inspirer de ce qui se passe à un échelon local. Moi, dans mon conseil municipal, il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le village. Il y a des gens de tous les âges. Il y a des gens de plein de métiers et professions différentes. Et puis, il y a des gens qui pensent différemment politiquement. Mais ça n'a jamais été un sujet. Je ne leur ai jamais posé la question. Et on arrive quand même à faire vivre de la commune. Et ça, c'est du consensus. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, sur la question... Merde, j'ai oublié.
C'était quoi la deuxième partie de ta question?
C'est redonner justement envie aux jeunes de s'investir localement, en fait, dans la politique locale.
Oui, pour redonner envie de s'investir localement, le maire et la figure du maire restent encore une figure, je crois, mais il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas juste dire que c'est un totem, qu'on est apprécié, que c'est une figure, et il faut se donner les raisons du pourquoi. J'en ai donné une sur le fait qu'on arrive à faire avancer les choses. Il y en a une autre, c'est qu'on est encore un endroit où on prend des responsabilités. Parce que, en fait, quand il y a des problèmes, on vient nous donner la responsabilité de le régler, ce problème. C'est-à-dire que moi, demain, on vient prendre une mesure à l'échelon national, et ben moi, je vais être à la fois en charge potentiellement de l'appliquer, mais je vais aussi être en charge d'aller voir la famille qui ne pourra plus avoir accès à telle aide et qui va se retrouver dans la rue. Et en fait, on va croiser les deux et on se retrouve au milieu et on essaye de trouver des solutions qui vont convenir un petit peu à tout le monde. Et cette question de responsabilité, elle est hyper importante, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les maires ont encore une cote de popularité qui est supérieure aux autres.
C'est quoi le printemps des maires, du coup? Vous allez faire quoi?
Le printemps des maires... En gros, l'idée, c'est de dire, on entend beaucoup de choses aujourd'hui sur les maires qui nous disent que c'est difficile. Il y a beaucoup de problèmes, il y en a plein qui démissionnent, etc. Et qui est finalement un discours qui est un peu déprimant. Et nous, on vient de dire, certes, c'est difficile, mais en fait, c'est un espace d'expérimentation incroyable. Et dans cette difficulté, on arrive encore à faire bouger la France, et on a besoin de trouver des gens qui ont envie de le faire et que c'est un bon endroit pour le faire. Et donc... assez modestement, avec quelques autres collègues maires, on s'est dit, on va essayer de redorer un petit peu le blason de cette image des maires. Et puis, c'est une série de webinaires, c'est du mentorat, on vient travailler un petit peu sur des idées. Mais l'objectif derrière, c'est de se dire qu'il y a encore un espoir et que le futur s'écrit au village ou à l'échelle de la ville. Et que si on veut que cette phrase, elle devienne réalité, ben, c'est à nous de nous bouger un petit peu.
Tu as été élu maire de Vinzieux, maire sans étiquette. Je voulais te demander, est-ce que dans une commune comme Vinzieux, il y a des politiques de droite et des politiques de gauche? Une action municipale, elle peut avoir une couleur politique dans une petite ville?
Pas vraiment. Pas vraiment. On peut dire qu'on a une politique en faveur de la culture, on peut dire qu'on a une politique environnementale, on peut dire qu'on a une politique qui essaie de faire en sorte à ce que Vinzieux, là, par exemple, le 17 octobre, on a eu des pluies monstres, on a eu des inondations dans le camp. 17 octobre dernier.
Ah, et dernier, l'année dernière, pardon.
De l'année dernière, on a eu des pluies qui étaient gigantesques. Il y a des communes à côté de chez moi qui ont subi des dégâts énormes. Nous, on en a subi quelques-uns. Nous, on a lancé une politique pour... c'est très modeste, hein, mais on est allé voir les habitants qui étaient les plus concernés et on a essayé de trouver des solutions ensemble. Ça, c'est pas de gauche, c'est de droite. C'est pas de gauche, c'est pas de droite.
Là, en l'occurrence, non, parce que tu parles d'une intempérie, des conséquences d'une intempérie. On se doute que c'est pas spécifiquement droite et de gauche. Mais non, mais ok.
En fait, ce que je veux dire, c'est que même quand on vient mener une politique un peu plus culturelle, parce qu'on a envie de faire ramener des concerts, des spectacles dans le village, ou quand on a envie de traiter la question de l'environnement sur un sujet ou un autre, moi, je me la pose jamais comme un sujet de gauche ou de droite à Vinzieux. Et je pense que c'est même comme ça qu'on devrait réfléchir à une échelle plus globale, plutôt que de se demander à qui est-ce que ça va plaire dans les partis politiques, c'est juste de se demander mais qu'est-ce qui est bien pour le village. Et nous, on a identifié quelque chose à Vinzieux et on y reste. On se dit, Vinzieux, c'est un village qui a tout sur le papier pour devenir un village dortoir, et nous, on veut se battre pour que ça ne le soit pas. Et en fait, on suit cette petite ligne tout au long des différentes actions qu'on mène, et en fait, c'est ça notre boussole.
Lomir ?
Ça, je comprends bien au niveau de l'action municipale, de l'action sur la commune. Mais au-delà de l'action, il y a ton discours et ton destin peut-être national. Ce que je comprends que c'était plutôt situé à gauche. Est-ce que les gens le savent ? Est-ce que c'est des conversations que vous avez ? Je pose la question parce que on est à quelques mois des municipales avec une tendance qui est quand même qu'il y a beaucoup de maires sans étiquette ou modérés ou en tout cas pas d'extrême droite qui constatent une montée de l'extrême droite aux élections nationales chez leurs administrés et qui se posent vraiment la question de leur rôle là-dedans. Est-ce qu'ils devraient ouvrir des conversations sur les raisons de ce vote ? Est-ce que quelle est leur responsabilité là-dedans ? Parce que moi, ce que je vois en tout cas, c'est que chez beaucoup, ça crée beaucoup de souffrance qui vient à l'incompréhension totale de comment vous pouvez voter pour eux et voter pour moi alors que est-ce que vous ne savez pas qu'on a les mêmes valeurs ? Toi, comment tu vois ton rôle là-dedans ? Est-ce que tu en vois un ? Et comment tu le gères ? Parce que ça doit vraiment pas être évident.
C'est sûr qu'on se pose toujours beaucoup de questions quand on voit des résultats d'élections. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais moi, je me rappelle avoir eu cette image sur un 49-3 il n'y a pas si longtemps. Ça faisait 6 mois qu'on avait bossé justement avec InSit, avec des jeunes en service civique pour créer du lien dans le village, pour les questionner sur ce qu'ils avaient envie. Et en fait, derrière, pour leur dire, bah, vous voyez, la politique, ça peut faire changer les choses. Et puis, on vient discuter ensemble et on discute sur les gros projets d'aménagement de centre-bourg qu'on est en train de terminer en ce moment dans le village. Et puis là, on arrive au bout de 5 mois de mission de service civique avec ces jeunes qui se sont investis dans le village. Et là, bam, 49-3, tout le monde dans la rue, etc. Et là, je me dis... Là, moi, dans ma mairie, je suis dans un petit bateau en train de nager à contre-courant pour essayer de faire passer un certain nombre d'idées. Et en fait, clairement, on est dans ce petit bateau. Et c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important et que je vous remercie de m'inviter là. C'est qu'il y a les actions concrètes qu'on est en capacité de faire, mais après, il faut aussi faire passer des messages. Mais c'est deux choses qui sont en fait un petit peu... très liées, mais aussi très différentes. Les messages qu'on peut porter pour avoir des vrais changements à une échelle globale, à une échelle systémique, à une échelle nationale, et c'est des mots qui sont importants, qui sont lourds, et que j'aime bien porter, mais aussi des trucs très concrets et relier les deux, parce qu'aujourd'hui, on a une fracture entre les deux, en fait.
Latifa ?
On l'a dit hein, plusieurs fois, l'année prochaine, c'est une année donc, d'élection municipale. Quel conseil tu donnerais à un jeune qui se lance à la conquête d'une mairie, à Louis Sarkozy, par exemple ? Il dirait quoi ?
Est-ce que je peux compléter ?
Vas-y, complète la question, Lomir.
Parce que, comme on se connaît un peu, je sais que tu as mené de front des études supérieures et le fait d'avoir été élu. Est-ce que il n'y a pas besoin de choisir, finalement, entre les deux ? Toi, tu as réussi à faire les deux et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui ne veut pas choisir entre ces deux trucs, par exemple ?
Ok, alors, déjà, je ne suis pas sûr d'avoir des conseils à donner à Louis Sarkozy. Mais par
comme
contre,
c'est
à
un
tous
jeune
les
candidat qui se lance, ouais. Ne le fais pas.
Toi, t'es maire depuis 5 ans.
mais par contre, à tous les jeunes qui ont, c'est là où il y a une petite différence, des soucis de légitimité et en fait qui se la posent comme ça. Mais la première chose à faire, c'est d'y aller et de ne pas écouter tous ceux qui disent qu'on est trop jeune pour être légitime. Parce que en fait, la question, c'est le boulot, c'est de dire, il faut. Oui, c'est dur. Oui, il y a du boulot. Oui, il faut apprendre plein de trucs. Mais c'est passionnant et t'as ta place parce que c'est les maires qui vont construire nos territoires de demain. Et il y en a tout plein. Et si ce n'est pas être maire, ce sera être adjoint. Et si ce n'est pas être adjoint, ce sera être élu en fonction de l'ambition qu'on a envie de se donner. Mais il faut rentrer là-dedans parce que c'est vraiment notre quotidien et ce sera notre quotidien demain, ça, quoi. Et après, il y a plein d'autres problèmes. Moi, j'ai fait mes études à côté et on parlait de ce qui pouvait empêcher les gens d'être élus. Mais aujourd'hui, c'est le problème de la valorisation. Comment est-ce qu'on est capable d'être maire, d'être étudiant et de gagner sa vie? Moi, je ne sais pas. Il y a des moments où c'est très difficile et où il faut réussir à boucler le bois. Et là, il y a un petit sujet à avoir, qui est le sujet sur le statut de l'élu qui traîne et qui traîne depuis super longtemps et qui peut aussi permettre la diversité et le renouvellement. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas moi qui ai les manettes pour faire ce genre de truc. Mais par contre, on a besoin de créer des cadres parce que sinon, on ne peut pas juste dire il nous faut des jeunes, il nous faut des jeunes, il nous faut des jeunes, mais que pour pouvoir être élu et vivre correctement, il faille être soit retraité, soit avoir déjà un petit pécule de base qui soit assez important.
Surtout dans un contexte où déjà on lutte pour convaincre les jeunes juste d'aller voter à toutes les élections, quoi, et que c'est la catégorie de population qui vote le moins, hein, je crois, la jeunesse, mais c'est vrai que c'est... Enfin, là, ça demanderait des moyens, là, en termes de communication et tout, sur l'engagement, ou peut-être juste des petites étapes, quand on peut voir que, par exemple, l'enseignement, enfin, l'éducation civique, elle est très peu présente, et c'est toujours un enseignement qui saute au collège, au lycée, etc., et c'est peut-être aussi une porte d'entrée par là, quoi.
On pourrait en parler, de l'éducation civique. Moi, en éducation civique, j'ai appris qu'il existait une commune, j'ai appris qu'il existait une région, j'ai appris qu'il existait un département, etc., etc. Mais j'ai jamais appris ce qu'on faisait à l'intérieur. Et il a fallu que je me retrouve à un moment donné dans la boîte, dans la boutique, avec les mains dans le cambouis, pour me dire « Ah, mais c'est intéressant et ça a un impact sur ma vie. » Et ça, il faut qu'on réussisse à le transmettre. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura envie de s'engager, et parce que c'est du temps, c'est de l'énergie. Et on a besoin de gens qui sont passionnés partout et pour tout. Mais ça veut dire qu'au moins, on est alerte sur le fait que, ben oui, à un moment donné, quand on a... je peux parler des départementales, parce que j'avais fait une campagne de départementales. Un département à gauche et un département à droite ne produit pas les mêmes politiques sociales. Nos anciens, ils ne sont pas traités pareil dans les EHPAD, parce que c'est eux qui... Et ça, ce discours-là, quand on nous dit la droite et la gauche n'existent plus, en fait, derrière, c'est le discours de la politique ne changera rien, alors qu'il y a vraiment des axes de futur qui se dessinent.
On parle beaucoup du phénomène de désertification des communes rurales. Est-ce que ça existe à Vincieux ? Comment ça se manifeste ?
Alors, on a eu un chiffre tout à l'heure qui est tombé. Les communes rurales, en réalité, elles progressent en termes de population. Elles sont beaucoup plus jeunes que ce qu'on pense.
C'est lié au Covid ? C'est lié à ce phénomène des urbains qui viennent s'installer à la campagne ?
Je pense que c'est lié à un discours global médiatique qui a tendance à nous dire « Nos communes, elles sont vieillissantes, elles se vident, elles se referment sur elles-mêmes, etc. » Enfin, un discours qui se recentre. Alors qu'en réalité, moi, quand je vais dans plein de communes, et là, j'ai encore eu plein d'exemples de maires qui nous expliquent comment est-ce qu'ils retravaillent le cycle de l'eau, de maires qui nous expliquent comment est-ce qu'on remonte un EHPAD dans sa commune et qu'on va se battre pour qu'il arrive, d'autres qui nous expliquent comment est-ce qu'ils travaillent sur l'agriculture en bossant sur des fermes communales, etc., etc. Et en fait, ça se fait avec des gens qui sont engagés dans des territoires, qui impliquent plein de citoyens. Et ça, c'est un poumon de la vie de la France. C'est quand même 32, 33 000 communes dans lesquelles il y en a plein où il se passe tout ça, et on n'en parle jamais. Et moi, dans mon département, j'en ai plein des exemples, des gens qui bossent sur la forêt, des gens qui bossent de manière un peu innovante sur la voirie, des gens qui bossent sur le lien social. On a beaucoup parlé, quand on a commencé le printemps des maires, sur la fraternité, avec un truc sur la fraternité. Mais la fraternité des maires, c'est quoi ? C'est plein de gens dans leur commune qui font discuter des gens ensemble. Et nous, à Vincieux, on a organisé des repas pour que les gens se rencontrent. Et d'ailleurs, le premier repas de Noël qu'on a fait avec les habitants, là, l'année dernière, on a eu cette idée-là. On s'est dit, plutôt que d'aller illuminer le village parce que ça nous coûte très très cher, on va offrir un repas aux habitants. C'était à quelques jours de la dissolution, de la censure du gouvernement, donc au mois de décembre. Et pendant toute une soirée, on a parlé du village, du fait qu'on était content de construire des trucs ensemble, et on ne s'est pas attardé sur le désespoir national qui était en train de nous prendre.
J'aurais dû passer la soirée avec vous. Loumir.
Non, je pense que c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que c'est, on a déjà abordé ce sujet de la vision très misérabiliste de la campagne. Et il faut aussi rappeler que la campagne, ça veut un peu tout et rien dire. Enfin, c'est plus de 85% du territoire, c'est 30% des Français. En fait, c'est pas la même chose de vivre dans ce qu'on appelle du rural attractif, où en effet, il y a des néo-ruraux qui vont s'installer. Je pense au Perche ou à la Drôme, par exemple, dans certains coins. C'est pas la même chose de vivre, par exemple, moi je vis dans du rural industriel qui est très attractif, mais pas forcément des néo-diplômés, mais par des classes populaires qui n'ont plus envie de vivre en ville et qui viennent s'installer. Chez nous, c'est pas la même chose de vivre dans une zone soit littorale, soit montagne, où en fait, à l'année, t'es 100, et puis en hiver ou en été, la population explose. De vivre dans la Meuse, où il y a beaucoup de ces zones-là qui, elles, se vident parce qu'il n'y a plus d'emplois, où il y a... beaucoup d'endroits, notamment la Creuse, la Lozère, où là, pour le coup, c'est une population vieillissante, mais ou de vivre dans la ruralité ultramarine. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même tendance souvent à dire ah, les ruraux, les campagnes. Et en fait, ça veut vraiment pas dire grand-chose, à part... je suis assez sûre que des enfants de cadres journalistes parisiens qui en sont allés habiter dans le Perche, ils n'ont pas la même enfance que moi j'ai eue, même si nos villages comptent le même nombre d'habitants, en fait.
Et puis, tu as raison, c'est comme quand on dit les urbains, de quel urbanisme on parle, en fait, ça veut dire quoi? Mais rien que la ville de Paris est hyper diverse, il y a plein de quartiers différents.
Oui, donc t'imagines, mais c'est comme quand les Parisiens disent « j'ai passé le week-end à la campagne ». Mais où, en fait? Parce que ça veut rien dire.
Mais je veux rebondir sur cette vision misérabiliste. C'est une manière de dire aux communes, bon, bah allez, on va vous aider parce que vous en avez besoin et puis vous n'y arrivez pas tout seul. Mais en fait, ce qu'on demande, nous, les communes, c'est pas ça. C'est juste de dire, stop avec l'argent de poche, donnez-nous les moyens d'avoir les moyens pour qu'on puisse mener notre ambition et puis pour que juste on puisse montrer qu'on est des territoires innovants, dynamiques, solidaires, joyeux. Et toutes ces composantes, on les a.
Namo ?
Comment est-ce que le contexte politique national impacte justement ta commune et crée peut-être une forme d'incertitude, je pense notamment justement l'absence de budget, tout ça. Quelles sont tes craintes par rapport à cette instabilité qu'on connaît en ce moment ?
Il y a un vrai paradoxe, en fait. C'est que nous, dans nos communes, en vérité, ça fonctionne et on arrive à tenir la baraque et on arrive... Enfin, je veux dire, nos budgets, ils ont toujours été à l'équilibre. On nous a fait faire 85 milliards de coupes diverses et variées depuis 15 ans et on arrive toujours à produire des budgets. On arrive toujours à faire des trucs et encore plus. Je dirais, le lien avec les habitants, je sens qu'il est là et que j'arrive à le resserrer, que ça demande de l'énergie. Mais moi, je suis super content de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui s'engagent à Vinzieux, qu'on arrive à partager des choses et qu'on arrive à faire des projets. Après, on a une incertitude qu'il y a là, qui plane au-dessus de nous. Et en fait, moi, je sens que l'ambiance est assez lourde et assez pesante, en fait. Et on se retrouve avec une politique communale, d'un côté, où on essaye de régler des problèmes, où les gens ont de l'espoir pour qu'on règle leurs problèmes. Puis une politique nationale, de toute façon, si on prend l'étude Ipsos, la très bien nommée étude sur la confiance politique qui est sortie au mois de mars, les trois mots qui ressortent en tête, c'est colère, morosité, lassitude. Tout est dit, on le ressent quand les gens ils sont venus mettre un bulletin de vote après la dissolution législative. Nous, on tient les bureaux de vote, les maires, toute la journée. Et moi, j'aime bien être là toute la journée. J'ai senti un dépit et une colère froide qu'on ressent. Et on essaye de dealer avec tout ça, mais... Et je vous avoue que je n'ai pas encore bien compris quel était notre rôle au-delà de ça, à part de dire qu'on a besoin de plus de moyens pour faire, parce qu'on est encore un espace où ça marche.
Au moment du Covid, on avait besoin de solidarité de manière très concrète. Les maires ont été vraiment encensés par l'État, qui les aimait, qui les adorait. Et puis ensuite, il y a eu les coupes budgétaires, tu l'as dit, dans les dotations générales de fonctionnement. Comment tu l'as vécu, toi? Est-ce que c'est de plus en plus galère de boucler les budgets?
Alors ça a commencé avant le Covid. Oui, c'est galère parce qu'on a l'effet ciseau. L'effet ciseau, c'est quoi? C'est qu'on augmente les dépenses d'une part, on baisse les recettes de l'autre. à Vinzieux, on arrive encore à y arriver parce qu'on gagne en habitants, ce qui nous permet de maintenir et d'augmenter un petit peu nos dotations et qu'on ne voit pas les dotations baisser. Mais à un moment donné, il faut être solidaire. Et il faut être solidaire aussi des communes qui sont en difficulté parce qu'elles sont en stagnation ou en perte d'habitants, parce qu'on leur rajoute d'un seul coup des dépenses nouvelles. En fait, on est assez inquiet pour l'autonomie des communes à l'avenir. Parce que plus on réduit nos dépenses et on augmente, plus on réduit nos recettes et on augmente nos dépenses, plus on se resserre sur l'essentiel et plus on va être obligé d'aller taper, d'aller choisir sur différentes politiques. Et en fait, derrière, il va falloir qu'on arrête les politiques innovantes qu'on peut faire pour essayer d'aller ouvrir un centre de soins, une maison de santé quelque part où il y en a besoin, d'essayer de créer des services de mobilité un peu plus conséquents parce qu'il y en a besoin. La conséquence, elle va arriver et le contre-coup, je ne suis pas sûr qu'il soit réellement là encore.
Est-ce que la multiplication et la complexité des échelons territoriaux, ça complique ton taf ?
Complètement.
Ouais, carrément, vas-y, raconte.
Mais parce que quand on arrive et qu'on est un jeune maire, dans le sens où c'est notre premier mandat et qu'on débarque, et qu'on se rend compte qu'il y a 14 échelons différents pour aller demander, avec un échelon administratif, un échelon politique, avec des interlocuteurs qui ne sont pas tous les mêmes et qui ont des avis différents et divergents, c'est la meilleure manière de n'arriver à rien faire. Et donc, c'est compliqué parce que ça nous bouffe du temps. Et tout le temps que j'utilise, entre guillemets, pour essayer d'aller déposer mon dossier de subvention pour faire un petit projet dans la commune ou un gros projet dans la commune, eh ben, si je vais en déposer 4 des projets et que j'y passe du coup 3, 4, 5 jours à écrire mes 4 dossiers, eh ben, à l'intérieur, il y a peut-être 3 jours sur lesquels j'aurais pu passer un petit peu de temps pour faire autre chose. Alors aujourd'hui, on le fait et on joue avec ces règles du jeu, mais il va falloir qu'on réfléchisse à réduire un petit peu le corpus législatif ou le corpus des ordonnances qu'on reçoit. Parce qu'on nous donne plein de responsabilités, on reçoit des nouvelles normes qui tombent très 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 régulièrement et nos secrétaires de mairie n'arrivent plus à suivre. Nous, on a un petit peu du mal à suivre et des fois, on fait l'impasse sur des trucs parce que sinon, nos communes, on ne vit plus quoi.
Tu peux donner des exemples de dernières normes que tu as reçues, par exemple, pour qu'on comprenne ?
On a l'exemple le plus criant que je n'ai pas vécu personnellement, mais qui est tellement, tellement, tellement lourd, c'était le protocole Covid pour les écoles. Le protocole Covid pour les écoles, chaque semaine, il y avait des pages qui se rajoutaient pour savoir comment est-ce qu'il fallait ouvrir ou fermer la fenêtre, les aérations, les entrées, les sorties des enfants, etc. Et aujourd'hui, après, viennent se rajouter, en fait, des choses sur l'utilisation des artifices, sur la réglementation des feux de forêt, sur enfin des protections incendies et des feux en bordure de forêt, sur lesquels on a eu récemment, j'en ai une en tête sur la rénovation thermique des différents bâtiments avec des études obligatoires qui doivent tomber. Et en fait, si on prend chacun de ces trucs individuellement, c'est pertinent. Mais nous dire il faut tout faire en même temps et on vous coupe des moyens, il y a un moment donné où ça coince. Et là où on pourrait faire avancer le schmilblick, parce que l'idée, ce n'est pas de taper pour taper, c'est de dire, nous, en tant que maire, on a une responsabilité, faites-nous confiance, donnez-nous les sujets, on est capable de les prendre. Lesquels sont prioritaires pour la commune, à quel moment? Et moi, réponse à Vinzieux ne sera pas la réponse de la commune à côté, Féline ou Charnat ou Brossin, qui sont à côté de chez moi.
Ça va faire très question entretien d'embauche, mais tu t'imagines où dans 10 ans?
Waouh.
Non, mais voilà, en gros, est-ce que tu continues sur la politique? Est-ce que tu te vois à des responsabilités plus importantes et au-delà de ta ville?
Alors, il y a 10 ans, j'avais 14 ans et je ne me voyais pas trop là aujourd'hui.
Maire de Vinzieux.
Et donc, dans 10 ans, je me dis, mais il y a déjà tellement de choses qui ont changé qu'on verra où ça va me mener. Après, il y a un truc qui est sûr, c'est que Je trouve ça passionnant de faire de la politique et j'aurais envie de continuer à en faire. Mais dire faire de la politique, c'est pas juste être élu. Il y a plein de gens qui font de la politique au quotidien sans le savoir. Il y a des responsables associatifs. Déjà, être responsable de son club de foot ou faire du bénévolat chez soi ou aller discuter ou s'occuper de ses parents, de ses grands-parents qui en ont besoin à un moment, c'est aussi faire de la politique, c'est aussi s'intéresser là-dedans. J'ai dit ça, j'ai rien dit. Moi, j'ai envie de continuer à en faire. On verra comment. Et, Et en fait, on a besoin d'être super nombreux pour essayer de bouger les lignes, quoi, de changer les trucs. On est là, on fait plein de constats de trucs qui vont pas. Moi, tant que j'ai de l'espoir et que j'ai envie de faire un peu bouger les trucs, ben, j'y vais, quoi.
Et tu seras candidat l'année prochaine à ta propre succession ?
Oh là là, c'est la question qu'on me pose.
Ouais, on est chiant, hein, désolé.
Ouais, tout le temps, tout le temps.
En même temps, c'est en ce moment que ça se joue. Arrête-moi si je dis une connerie, mais c'est en ce moment que les listes.
Il ouais, y a plein de gens qui se lancent là. Enfin, c'est lance. La période.
Il y a des gens dans le chat qui hésitent. Enfin voilà, c'est en ce moment quoi.
Allez-y.
En fait, je pourrais répondre très simplement. Je pense que tout le monde avec ce que j'ai raconté se met ses idées, mais je disais tout à l'heure que c'était une question d'équipe. De se présenter sur une municipale. Et donc, je me vois mal poser et répondre comme ça, alors que j'ai envie qu'on fasse ça en équipe et j'ai envie que la première fois qu'on annonce le truc, qu'on fasse ça à 15, parce qu'on sera 15, et qu'on fasse ça correctement, parce que moi, tout seul, être candidat, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on soit 15 pour y aller et pour que la commune, elle fonctionne. Et si on veut changer les choses, si on veut, de manière systémique, de manière globale, si on veut changer les choses, ben, il ne faut pas juste qu'on demande au maire est-ce que tu as envie de te présenter, c'est avec quelle équipe est-ce que tu vas. Et donc, on ira ça en équipe. Quoi.
On verra. D'accord, tu vois, on verra ça en équipe. Non, mais c'est la bonne réponse, effectivement. On verra ça en équipe. Bah, écoute, je te souhaite le meilleur, en tout cas. Cet été, tu as reçu la visite d'une célébrité nationale, Raphaël Glucksmann.
C'est vrai.
Qui est venu te rendre visite. Est-ce que c'est quelqu'un que, de quoi ? Le Cap Clair, oui, le Cap Clair, le fameux Le Glucksmann, il n'y en a qu'un. Le nôtre, le national. Est-ce que tu le soutiens pour 2027 ? Pas quoi ?
Mais il faut qu'on arrive à avoir un cap clair en 2027. Mais s'il y va, pourquoi pas. Mais la question, c'est comment, dans quelles conditions. Moi, je suis élu local d'une petite commune et je vous explique en fait comment est-ce que j'essaye de bouger, de faire évoluer les lignes et de dire, à un moment donné, là, droite, gauche, machin, etc. On essaye de faire vivre et de se battre pour un village. Il va falloir qu'on soit capable de proposer ça à l'échelle d'un pays. C'est en train de se construire. Moi, je suis plutôt intéressé par ces initiatives qui sont assez jeunes, en fait, qui sont pas très, qui sont pas sclérosées, en fait, comme ce qu'on peut avoir sur des partis traditionnels. Et donc, j'ai envie que ça marche. Et donc, je m'engage pour que ça marche. Et on verra. 2027, il va se passer beaucoup de trucs entre temps, mais carrément.
Est-ce que les citoyens te parlent du parrainage pour la présidentielle ou est-ce que les gens s'en tapent globalement ?
Réponse B.
Ouais, réponse B. Non, mais ça m'étonne pas parce que je me dis, enfin, moi, je fais partie des gens qui sont excités par ce genre de sujet, mais je pense que le commun des mortels normal.
Tu dois être l'un des rares.
Non, mais c'est ça. Je pense que les gens normaux, en fait, ils viennent pas gonfler leur mère avec vous parrainez qui ? Est-ce que vous allez parrainer machin ? Il faut parrainer truc et tout. Toi, tu me confirmes que les gens globalement te font pas chier avec ça ?
Non, je crois que c'est la première fois que j'ai une question là-dessus d'ailleurs.
Ouais, d'accord. Non, mais ça confirme.
C'est niche, ouais, effectivement, c'est niche.
J'ai une petite question. En fait, en regardant un peu ton parcours, du coup, on voit que tu es étudiant à Sciences Po, est-ce que c'est toujours le cas, en parallèle de ton mandat. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, t'es une sorte de Anna Montana, en fait. Donc, comment ça se passe auprès de... Alors, Anna Montana, qui est le jour une jeune étudiante, et le soir, pop star. Et donc toi, t'es étudiant et maire. Et donc, je sais pas, comment tes camarades te perçoivent ? Est-ce qu'ils savent que t'es maire ? Est-ce que tu t'en parles librement et comment aussi tu arrives à consolider ces deux activités très prenantes ? Tu disais tout à l'heure que c'était compliqué financièrement, notamment de boucler les fins de mois. Donc, parle-nous-en un peu.
Alors, ça se sait, forcément. En fait, la question du lien avec les études, elle est un peu difficile parce que j'ai un pied énorme, même peut-être deux pieds dans la vie active, et puis un côté études, et puis en plus j'ai des trucs qui sont assez liés, qui font que je me retrouve à avoir de la théorie sur des trucs que je suis déjà en pratique. Et du coup, voilà, j'ai rattaqué il n'y a pas très longtemps, mais ça crée à la fois une petite distance à l'origine, mais en fait, parce qu'on a des vies qui sont très très différentes, mais en fait j'essaye d'apporter assez modestement en disant tiens là ça je l'ai déjà fait chez moi, voilà comment ça peut fonctionner, etc. Et il y a surtout la question du temps et de l'énergie qui est dépensée sur les deux, et ça effectivement c'est un peu d'engagement, ça se fait, mais j'ai signé pour, donc maintenant j'assume et j'y vais.
Moi j'avais aussi une question, on a parlé du très très local, et il y a une question plus internationale dont on a parlé plus récemment pour les mairies avec l'affichage des drapeaux palestiniens sur les mairies. Toi, quel était ton positionnement là-dessus ?
Moi, je me sens pas très légitime, maire de Vinzieux, à me positionner sur de l'international, parce que c'est jamais un sujet en fait qui revient avec avec les habitants, et que si je peux avoir ma position là-dessus, etc. Ma position de maire, elle implique pas ce que je m'engage à l'international, donc on s'est même pas posé la question du drapeau sur le fronton, etc.
Il nous reste à te remercier d'avoir accepté cette invitation, cher Hugo. Merci. Bon courage à toi pour 2026, quelle que soit la décision de ton équipe et en ce qui te concerne. Et merci d'être venu sur le plateau de Backseat.
Merci, merci pour l'invitation à tout le monde.
À très bientôt, je te laisse quitter le plateau. On va conclure cette émission ensemble, les amis, toujours ici en direct du congrès de l'Association des maires ruraux de France. Une émission Backseat spéciale consacrée à la ruralité. Merci, les amis, pour tous ces échanges. Ça vous a plu? Vous les avez trouvés comment, ces élus locaux qu'on a reçus?
Chouette. Pour le coup, moi, j'ai grandi dans une ville moyenne, Saint-Étienne, et c'est vrai que on n'a pas forcément conscience de tout ce que ça implique d'être maire et de tout ce qui concerne les zones rurales. Donc c'était super d'apprendre ça à vos côtés, quoi.
Moi, je trouve que ça requinque vachement de les entendre parler, parce qu'effectivement, par rapport au misérabilisme habituel sur les élus locaux, les maires qui en ont marre, qui démissionnent, etc. Là, ce qu'on a entendu, c'est quand même des élus locaux qui ont la patate, qui ont envie de se démener pour leur territoire, pour les gens, etc. Ça fait plaisir, ça donne envie. J'espère que ça vous a donné envie, vous, de vous présenter aux élections municipales l'an prochain. Je vous rappelle que c'est en ce moment que ça se joue. Si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire chauffer le téléphone, à aller serrer des mains, aller rencontrer des gens, parce que peut-être que vous pourriez vous retrouver sur une liste et vous retrouvez simple conseiller municipal, pas forcément maire, mais c'est déjà très bien. Donc franchement,
il faut viser haut, dit leur maire.
Ouais, maire, président de la République, c'est votre moment.
Allez, non, mais oui, c'est vrai. En plus, il y en a qui se lancent. Ce serait bien qu'ils nous le disent après, si après cette émission, ça les a motivés. Mais c'est vrai que ça permet d'apprendre plein de choses. Si les gens ont du temps et l'envie, c'est plutôt chouette. Mais ouais, j'ai appris plein de choses. Alors que ouais, coming out rural, je viens de ruralité.
Mais ouais.
Je salue mais oui. Le département de la Manche 50. Est-ce que je dirais que c'est le plus beau département?
Je crois que t'es un peu obligé.
C'est un très très beau département.
Ah, d'accord. Waouh. Une non position.
Et toi, Loumire, ça t'a plu? Ouais, première grave. Émission Backseat en plus.
Bah ouais, très heureuse que ce soit sur un sujet qui est très cher à mon cœur.
Ouais.
Et très heureuse de l'avoir fait avec autant de gens si chouettes. Et vraiment, présentez-vous. Moi, je me suis présentée donc aux législatives. Je m'étais jamais présentée avant. J'avais été déléguée. Bon. mais en fait, on apprend en faisant. Et il y a des choses qui paraissent des montagnes qui, trois jours après, ne le sont plus. Enfin, tout va très vite, en fait. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'est que ça crée des liens durables et très beaux. Et surtout, je trouve que quand tu t'engages, notamment sur le terrain avec les gens, en fait, ça peut pas mal se passer. Parce que c'est tellement... En fait, on a tellement l'impression qu'on peut plus parler, qu'on s'engueule, etc. Mais faire du porte-à-porte, c'est le meilleur remède à l'anxiété généralisée, moi, je trouve. Parce que tu toques à la porte des gens et tu leur dis « qu'est-ce que vous auriez envie de changer à fortiori au niveau de votre ville ?» Et les gens, ils parlent de trucs hyper concrets, ils parlent de leur vie, ils parlent de leurs rêves, de leurs espoirs, de leur colère. Mais très rarement, ça se passe en embrouille. Donc, je trouve que ça paraît trop loin pour beaucoup. Mais une fois que tu as mis le doigt dedans, en fait, tout prend sens. Et donc, il ne faut pas trop se stresser.
Pareil sur le complexe d'illégitimité. Évidemment, il est tout à fait naturel, ce complexe d'illégitimité. On a du mal à se projeter dans une salle de conseil municipal, à devoir voter sur des délibérations, alors qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, délibération. Rassurez-vous, vous apprendrez. Voilà, vous allez apprendre de toutes les manières. Vous serez entouré. Il y aura des gens qui vont être là avec vous.
Je peux dire un dernier truc?
Ouais, vas-y, Loumire, je t'en prie.
Juste, je pense qu'il faut aussi replacer le moment. On est dans un moment d'essor clair de l'extrême droite. L'extrême droite financée a clairement des vues sur les élections municipales. Dans de très nombreux bourgs ruraux, il n'y a pas d'étiquette. Donc ça veut dire des choses super, comme on l'a entendu, sur le fait d'être capable de travailler avec des gens qui ont des obédiences différentes politiques. Mais ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de RN compatibles, de fachos compatibles, qui vont se présenter et dont on ne saura pas qui ils sont. Ces gens-là, ils ont été identifiés, ils sont financés, notamment par des milliardaires comme Pierre-Édouard Sterrin. Et les maires, ils votent pour le Sénat. Si le Sénat passe à l'extrême droite, c'est fini pour nous. Je ne veux pas faire du catastrophisme, hein, mais on est vraiment à une période charnière de notre République et de la démocratie. Et je crois que collectivement, c'est vraiment quelque chose de très impactant que vous pouvez faire, au-delà de toutes les belles choses que vous allez apprendre et vous allez faire au quotidien, visiblement, si on en croit Thibaut et Hugo qui nous ont partagé leurs expériences. C'est aussi un acte extrêmement fort de le faire maintenant, là où, franchement, tout peut basculer.
Je ne sais pas si toutes les politiques locales sont neutres, ni gauche ni droite, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez tout à fait faire une politique antifasciste au niveau local. C'est parfaitement faisable au quotidien.
C'est même recommandé.
Ne serait-ce
c'est
que même... s'impliquer, s'engager aussi.
Juste ça, non, mais faire de la solidarité, ouais. Faire du lien entre les gens, lutter contre l'isolement des personnes âgées, etc. Tout ça, c'est agir contre l'extrême droite. On ne se rend pas compte, mais ça compte énormément. On arrive à la fin de cette émission. Les amis, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets ? Namou.
Sur X et Instagram.
Sur X et Instagram, ok, trop bien. Latifa.
Le mouvement.ong, d'ailleurs nous allons bientôt sortir un petit fascicule pour apprendre à décrypter les stratégies de l'extrême droite et savoir comment y répondre.
Trop bien. Ça sort quand ?
Bientôt.
Tu viendras nous en parler dans Backseat ?
Exactement.
Trop cool. Loumir, je rappelle ton livre qui est sorti il y a deux jours, Ces gens-là plongés dans cette France qui pourrait tout faire basculer aux éditions Payot. On te retrouve dans ce livre, on te retrouve où d'autres ?
On me retrouve aussi sur Substack, dans ma newsletter qui s'appelle Plouk Power, et sur Instagram, Loumir. A priori, on n'est pas nombreuses.
Trop bien, merci. Il me reste à remercier l'Association des maires ruraux de France de nous avoir accueillis ici à Poitiers pour leur congrès. Merci beaucoup aux équipes techniques du congrès, celle de Gozulting également. Merci à Equal Production. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. Ciao, bye bye.